qui est important pour tout le monde, que ce soit citoyen, jaune ou pas, c'est juste de vivre dignement de son salaire.
Il y a une défiance envers les élus, et tant qu'on ne casse pas cette verticalité et qu'elle devienne horizontale, eh ben ça ne fonctionnera pas.
Alors je sais, c'est les retraités. Il paraît qu'on est les nantis. Qu'est-ce qu'il y a comme riche en France alors, hein ?
Ce qu'on veut, c'est des gens qui nous écoutent.
On a commencé aussi notre échange sur tout ce qui était fraude fiscale. Évidemment, nous, on va savoir très vite aller nous chercher pour 50 euros.
Et nous y voilà donc. Vous vous êtes peut-être reconnu dans ce petit florilège pêché dans les débats ici et là. Vous vous êtes sûrement reconnu parce que si on en croit les multiples questions et propositions que vous avez laissées sur France Inter, sur le site, l'application Au Standard, si on en croit l'hyperactivité des standardistes en ce moment, le grand débat, vous le suivez et vous avez envie d'en approfondir les thèmes avec les tout premiers concernés. C'est ce qu'on vous offre ce soir dans le Téléphone Sonne avec le Premier ministre. Les thèmes de vos contributions pour l'instant sont tournés vers la fiscalité. Vous nous parlez d'impôts, vous nous parlez de TVA, vous nous parlez aussi d'économies à réaliser par le gouvernement. Vous racontez votre attachement parfois au service public. Vous parlez violence policière, vous parlez de vos trajets. C'est exactement ce dialogue-là que vous aurez ce soir avec Édouard Philippe. On a le temps, on est là jusqu'à 21h. Essayez de resserrer vos questions parce qu'elles arrivent de partout. On est sur Facebook Live, également sur Twitter. Ici, évidemment, en chair et en os, c'est parti. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Je vous salue d'abord, monsieur le Premier ministre, bonsoir.
Bonsoir, Fabienne Synthès.
La tradition au téléphone sonne, c'est que ce soit un auditeur qui commence. C'est parti, c'est vous, Anne-Marie la première. Bonsoir, Anne-Marie.
Bonsoir à France Inter, merci de prendre ma question. Bonsoir, monsieur le Premier ministre.
Bonsoir, Anne-Marie.
Voici ma question. Puisque les thèmes sont circonscrits à quatre, que certaines questions sont d'ores et déjà écartées, que le Conseil national du débat public, reconnu pour son expertise, ne prend pas en charge ce débat pour assurer de façon neutre la remontée des idées, des propositions. Comment le gouvernement envisage-t-il de restaurer le lien de confiance qui a été rompu entre les citoyens et les politiques ? Ce que j'ai observé des débats entre le président de la République et des maires, c'est qu'ils ont servi davantage à permettre d'expliquer, de clarifier la politique, les choix politiques du gouvernement. Mais on ne voit pas très bien comment les revendications, les propositions ou les difficultés seront prises en compte. Donc ma question, c'est comment croire dans ces conditions vraiment sincèrement, que l'implication citoyenne au grand débat fonctionne. Voilà, merci Monsieur le Premier ministre et merci encore à France Inter.
Et merci à vous Anne-Marie pour cette entrée en matière et cette première question. Édouard Philippe, comment croire que tout ce que disent les gens aujourd'hui, vous en servirez, vous l'utiliserez ?
Bon, il y a beaucoup de questions dans la question d'Anne-Marie et beaucoup de défiance sur la qualité de l'organisation du débat et sa transparence. Et la capacité pour le gouvernement à utiliser ce qui sera formulé pendant ces réunions, dans ces prises de parole ou dans ces contributions qui sont adressées directement aux organisateurs du débat.
On parle de transparence.
Oui, oui, mais je comprends très bien que Anne-Marie se pose la question. Alors, je voudrais essayer de répondre de plusieurs façons. D'abord, elle a évoqué la Commission nationale du débat public, c'est-à-dire les garanties dans l'organisation du débat. C'est important. Parce qu'en effet, si on veut avoir confiance, il faut qu'on sache que les choix, ils ont été faits de telle ou telle façon et que ce sera utile. On a commencé à travailler avec la Commission nationale du débat public au tout début. On a demandé à sa présidente de nous aider, comme c'est d'ailleurs la compétence de la Commission nationale du débat public. Et d'ailleurs, la Commission nationale du débat public a commencé à nous aider. C'est elle qui a défini avec nous le format des réunions d'initiative locale. Il y a 2700 réunions d'initiative locale qui sont inscrites d'ores et déjà. 2700. C'est avec la Commission nationale du débat public qu'on a pensé à des stands mobiles. C'est avec la Commission nationale du débat public qu'on a essayé de réfléchir aux conférences régionales citoyennes, c'est-à-dire à la façon dont on tirerait au sort des Françaises, des Français, qui viendront s'exprimer en fin de débat sur ce qui aura été dit, sur la façon dont elles le perçoivent. Donc, on s'est appuyé sur cette commission. Et puis, vous savez, parce que c'est public, que la présidente de la Commission nationale du débat public a démissionné, qu'elle a souhaité ne plus participer à l'organisation du débat.
Et elle est partie, pardonnez-moi, sur cette phrase. Nous n'avons pas voulu que ce grand débat se résume à un questionnement sur quatre thèmes.
Oui, mais c'est parfaitement son droit et elle avait tout à fait le droit de le dire. Mais nous, ce que nous souhaitions, c'était faire en sorte que ce débat puisse être organisé de la façon la plus transparente possible. Et je reviendrai, parce que je veux répondre dans le détail à Anne-Marie, sur les garanties que nous apportons. Mais c'est vrai que le président de la République a souhaité cadrer le débat, non pas du tout pour éviter les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou dans ce débat. D'abord, ceux qui pensent qu'ils peuvent interdire aux Français de s'exprimer, ils connaissent pas les Français.
Oui, ben la preuve, d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés qui
exactement.
Ne sont pas dans les quatre.
Et il n'y a pas de sujet là-dessus. Chacun peut s'exprimer. Ce que le président de la République a dit, ça me semble important de le faire. J'observe d'ailleurs que la Commission nationale du débat public, quand elle organise un débat, elle fait la même chose. Elle cadre. Elle commence toujours par cadrer. C'est de dire, dans les quatre thèmes que je soumets au débat, je tirerai des conséquences profondes de ce qui se dit. Pas de sujet tabou, pas de sujet totem, mais l'engagement de prendre en compte ce qui sera dit dans quatre domaines, qui sont quatre domaines assez vastes. La fiscalité, l'organisation des services publics, le pouvoir d'achat, la transition écologique, reconnaissez avec moi que c'est assez large. Et puis, pour donner des garanties à Anne-Marie, enfin pas seulement à Anne-Marie, mais à tous les autres, on a demandé, ce qui est assez classique quand on veut organiser un groupe de femmes et d'hommes indépendantes, on a demandé au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil économique et social de désigner quelqu'un qui a la fonction de garant, c'est-à-dire au fond la fonction qui est généralement occupée par la Commission nationale du débat public. Sur les 2700 réunions qui sont organisées aujourd'hui, qui sont inscrites, vous vous doutez bien, et Anne-Marie en a parfaitement conscience, que dans les 2700, il n'y aura pas le président de la République, ou le Premier ministre, ou un membre du gouvernement. Et que l'important, c'est que les Français, où qu'ils soient, quel que soit leur âge, quel que soit leur métier, quel que soit leur habitude de participer au débat public. Il y a des Français qui ont l'habitude de participer au débat public, il y en a, et c'est une des choses que les Gilets jaunes nous ont dit, qui n'ont pas cette habitude et qui veulent le faire. C'est pour ça qu'on a voulu un débat foisonnant, c'est pour ça qu'on l'a organisé de façon foisonnante.
On a compris, mais la question d'Anne-Marie, c'était, et c'est d'ailleurs celle aussi de Marie-Christine qui est à Marseille, donc j'en profite, c'est la restitution des questions, comment est-elle organisée ? Est-ce qu'on est sûr que la question d'Anne-Marie dans les débats publics, y compris si elle sort des quatre questions que vous avez pointées, est-ce que tout ça sera pris en compte ?
Alors, les engagements que nous avons pris, c'est la transparence. Et nous n'avons pas voulu trancher un certain nombre de questions relatives à la remontée des contributions, à l'exploitation des contributions, avant que les garants ne soient nommés. Pardon, c'est un peu de la mécanique d'organisation du débat, mais imaginez qu'on ait dit, avant que ces garants-là qui nous observent, qui donnent des avis, qui sont publics, sur le thème « vous devriez peut-être faire ça » ou « vous devriez penser à ça », avant qu'ils ne soient nommés, nous n'avons pas voulu trancher toutes ces questions pour pouvoir les discuter avec eux et apporter à l'ensemble des citoyens les garanties qu'ils demandent. Donc, vous savez, on s'est engagé dans un exercice qui n'a pas d'équivalent. On n'a jamais fait ça. La Commission nationale du débat public, elle n'avait jamais organisé quelque chose comme ça. On fait quelque chose de neuf. Et on essaie de le faire en toute transparence. Je vais vous donner un exemple.
Parce qu'il faudrait... il y a plein d'auditeurs, Monsieur le Premier ministre.
Ça parlait un peu longtemps.
C'est vrai, mais ne vous inquiétez pas. Je suis là aussi pour vous dire d'accélérer.
Bon,
mais finissez quand même votre idée.
Nous avons dit, par exemple, et c'est une des données, il y a beaucoup d'autres garanties qui sont apportées, mais nous avons voulu faire en sorte que toutes les données, toutes les contributions, tout ce qui sera produit, les comptes rendus dans ce débat, soient accessibles à tous ceux qui le souhaitent. Et c'est un des éléments indispensables de la transparence et je dirais même de l'utilité du débat. C'est un des éléments, il y en a beaucoup d'autres.
Allez, il y a beaucoup de choses aussi donc, qui vont être dites, qui sont dites pendant ces débats et qui seront dites ce soir et qui ne sont pas forcément dans ces quatre cadres-là. Et c'est Marc qui commence. Bonsoir Marc, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir Monsieur le Premier ministre.
Bonsoir Marc.
Voilà, je voudrais vous interroger justement sur la justice fiscale. Le gouvernement se trouve dans une impasse budgétaire actuellement. Vous êtes obligé d'emprunter sur les marchés. Et pourtant, il faut de l'argent pour assurer les services publics, c'est-à-dire l'éducation et la santé, etc., l'aide sociale. C'est absolument indispensable. Alors je pense que les prélèvements viennent des taxes et de l'impôt sur le revenu. Je trouve, il me semble que les taxes sont beaucoup trop importantes. Elles représentent, 75% des prélèvements. Donc, il me semble que la TVA en particulier pour les produits de première nécessité ne devrait pas exister. Et par contre, il faudrait que l'impôt sur le revenu soit la part principale des prélèvements. Je préconise que l'impôt sur le revenu soit universel, c'est-à-dire payé par tous les citoyens. Un contribuable est un citoyen à part entière, ne serait-ce que par quelques euros. Et de façon à ce qu'il soit progressif, et si une tranche supérieure pourrait très bien contribuer à la suppression de l'ISF. Voilà ce que je voudrais vous dire, parce que on entend toujours dire qu'il y a trop d'impôts, mais le mot impôt n'est pas une injure, ce n'est au contraire, c'est un mot noble, parce que je considère que l'impôt sur le revenu...
Marc, pardon de vous interrompre, mais vraiment, il y a tellement de monde que j'aimerais que tout le monde ait le temps de participer. On a compris les trois idées importantes de votre question. Édouard Philippe, la première, tiens d'abord, parce que c'est peut-être celle qui se tranche le plus vite, vous allez nous le dire, un impôt universel, oui ou non ?
Sur cette question de justice fiscale et la question de savoir si on doit payer l'impôt dès le premier euro, gagné est posée souvent. Alors, je voudrais dire, et tous nos concitoyens le savent, qu'ils payent un euro dès le premier euro gagné. Ils payent un impôt dès le premier euro gagné. La CSG, c'est un impôt. Elle est payée, quel que soit le niveau de revenu, et dès le premier euro gagné. La TVA, monsieur dit que c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, c'est un impôt qui vient abonder le budget de l'État et financer nos services publics. Elle est payée, quel que soit le revenu.
Mais la symbolique d'un impôt sur le revenu,
je comprends très bien. Ensuite, il y a l'impôt sur le revenu. Voilà. L'impôt sur le revenu, sur les 38 millions de foyers français, il y a la moitié, grosso modo, la moitié des foyers qui le payent. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de foyers qui ne le payent pas. Pour vous donner un élément sur la progressivité de l'impôt sur le revenu, il faut avoir en tête que 10% des foyers qui payent l'impôt sur le revenu payent 70% du produit de l'impôt sur le revenu. Et c'est normal, c'est un impôt progressif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les foyers les plus riches payent le montant le plus massif de l'impôt sur le revenu. Ça ne me choque pas. Nous avons un principe qu'en fonction de nos moyens, nous contribuons aux dépenses publiques nationales. Ça ne me choque pas. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans cette progressivité ? Il y a des gens qui le pensent, qui le disent. En baissant le taux, en faisant en sorte que dès le premier euro gagné, on paye l'impôt sur le revenu.
Même symbolique.
Il faut comprendre que ça veut dire qu'on augmente le montant d'impôt qui pèse sur les Français les plus modestes. Ce que dit Marc en disant c'est de la justice fiscale, il y a beaucoup de gens qui diront à Marc, mais non, c'est pas du tout de la justice fiscale puisque vous allez alourdir l'impôt sur les revenus les plus modestes. Est-ce qu'il faut aller à un taux marginal plus élevé pour les revenus les plus élevés ? C'est une question qui est souvent évoquée dans les débats. C'est important ces questions de justice fiscale. Moi, je suis totalement ouvert à ce débat sur la justice fiscale. Je suis aussi très attaché au fait de dire que notre impôt, notre système fiscal, qui est redoutablement compliqué, qui l'est beaucoup trop à mon avis, enfin c'est comme ça, il est redoutablement compliqué, il doit être aussi adapté au monde tel qu'il est. C'est vrai pour l'imposition des personnes, c'est aussi vrai pour l'imposition des entreprises. Donc il faut qu'il soit souple et il faut qu'il soit d'une certaine façon adapté aux contraintes de notre époque.
Mais est-ce que vous nous dites que oui, on réfléchit réellement à rajouter une tranche, on réfléchit réellement à faire payer effectivement dès le premier euro gagné ou pas ?
Vous savez, pour l'instant on écoute. Un débat, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on sait où on a envie d'aller. Un débat, c'est chacun l'aborde avec ses convictions.
Non, mais vous pouvez fermer une porte. Est-ce que vous laissez cette porte-là ouverte ?
Moi, j'écoute ce que disent les Français sur l'impôt sur le revenu. Je comprends très bien ceux qui disent qu'il y a une valeur symbolique de payer l'impôt dès le premier euro gagné, que tout le monde soit dans l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire qu'il rapporterait beaucoup plus que les 76 milliards de produits de l'impôt sur le revenu d'aujourd'hui. Ce qui voudrait dire peut-être baisser d'autres impôts, lesquels, ça se regarde. Mais je suis ouvert sur ce sujet parce que ce sujet fait partie du débat et que je comprends très bien ces questions de justice fiscale.
On va rejoindre Christiane dans un instant. Une toute dernière chose sur la question de Marc, je veux pas qu'on passe au travers. Il évoque la TVA à 0%, c'est le grand thème du moment. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible, Édouard Philippe, une TVA à 0%?
C'est intellectuellement possible, c'est juridiquement possible si on en discute et si on obtenait cela.
Une dérogation, par ailleurs.
Parce que la TVA est un impôt qui est soumis au droit communautaire. Aujourd'hui, les produits de première nécessité, ils ont un taux de TVA extrêmement faible. On a deux taux très réduits, le 2,5 et le 5,5. Donc, il y a déjà des taux de TVA qui sont extrêmement faibles. Il ne faut pas se tromper. La différence entre une TVA à 2% et une TVA à 0% sur des produits de première nécessité, c'est quasi invisible. Mais cela dit, cette question est posée. Il y a d'autres pays d'Europe où la TVA est à zéro sur les produits de première nécessité.
Christiane, bonsoir.
Oui, bonsoir France Inter. Merci pour vos émissions. Je vous écoute très souvent. Bonsoir Monsieur le Premier ministre.
Alors, bonsoir Christiane.
Ce que je vais dire va peut-être être redondant. Je suis assez d'accord avec l'interlocuteur précédent. Simplement, je souhaite que l'on revienne, puisque j'ai 72 ans, donc j'ai connu ça, que l'on revienne au fondamental, c'est-à-dire que chacun paye au prorata de ses revenus et ensuite reçoive au prorata de ses besoins. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de simple. Et puis l'autre question qui n'était pas prévue, mais que je me permets de vous poser, c'est que l'on revienne également à l'indexation des retraites sur le niveau de vie des Français que donne l'INSEE régulièrement. Voilà. Et que nous n'avons pas. J'ai une toute petite retraite. Je peux vous dire que même quelques euros, pour moi, c'est très important. J'ai 1000 euros par mois pour vivre. Donc voilà.
Merci.
Voilà, Monsieur le Premier ministre.
Merci Christiane. Le Premier ministre va pouvoir vous répondre. Édouard Philippe.
Merci Christiane. Sur la question de la proportionnalité, je vous rejoins assez volontiers Christiane. Il se trouve que notre système, il a été construit au fil des années, c'est pas moi qui l'ai construit en 20 mois, et il y a des impôts très progressifs. Il a des impôts qui sont un peu moins progressifs. Il a des impôts qui ne sont pas progressifs. Quand on en supprime un, il faut en augmenter un autre si on veut conserver un niveau de recettes pour financer les dépenses publiques. Et tout changement dans l'imposition entraîne des choses qui sont compliquées. Mais je pense que nous pouvons travailler. C'est long. Je sais que c'est difficile. Mais nous pouvons travailler à un système fiscal moins complexe, moins absurde et plus progressif. J'en prends un exemple. Peut-être que Christiane est concernée. Nous avons décidé de supprimer la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est pas un impôt très progressif.
Et tant que je vous tiens, pour 80 ou 100% alors?
Moi je considère que si on supprime un impôt, il faut le supprimer.
Donc 100%.
Encore une fois, pour tout le monde. C'est l'engagement initial qu'a pris le président de la République. Je vois mal qu'on puisse durablement rester avec un impôt qui serait payé simplement par 20% des gens. Des gens qui auraient vocation à être assujettis. Donc ma position, c'est plutôt, si on supprime un impôt, de le supprimer complètement. Mais la taxe d'habitation, qui n'est pas un impôt très progressif, qui est payé par beaucoup de gens, est un impôt très injuste. C'est pas moi qui le dis, beaucoup de gens l'ont dit depuis très longtemps, c'est un impôt très injuste, parce que je sais pas où vous habitez, Christiane, mais il n'est pas impossible, en tout cas moi je sais que c'était comme ça au Havre, la ville dont j'étais le maire. Vous payez parfois plus d'impôts au titre de la taxe d'habitation lorsque vous vivez dans un quartier périphérique de la ville où là pourtant la valeur des logements a diminué par rapport au centre-ville et au centre-ville vous payez moins de taxes d'habitation. Cette situation absurde existe dans beaucoup de grandes villes françaises. Nous avons décidé de supprimer cet impôt injuste. Je pense qu'en faisant ça, on va dans le sens de la justice fiscale. Est-ce que c'est perceptible? Et est-ce que c'est ressenti comme tel? Je n'en suis pas sûr. C'est compliqué. Tout le monde est pour la justice fiscale. Tout le monde ne met pas exactement la même chose derrière le terme de justice fiscale.
Et Christiane, vous êtes encore là, vous, ou pas?
Oui, je suis encore là.
Et d'abord, vous êtes où, Christiane, qu'on sache à peu près combien vous payez en taxe d'habitation?
Alors, je ne paie pas, mais je ne payais pas avant les nouvelles dispositions. De toute façon, je ne payais pas avant, puisque j'ai 72 ans. D'accord. Avec un très, très bas revenu. Mais c'est vrai que cette taxe d'habitation, de toute façon, est injuste, dans ce sens où certaines personnes ne peuvent pas habiter dans certains endroits qu'elle voudrait parce que les taxes d'habitation étaient trop élevées.
Et Christiane, pardon de vous interrompre parce que j'ai pas oublié qu'il y avait une deuxième partie de votre question
pardon, Madame Sarrasque, mais juste pour dire à Christiane, et vous voyez la question de la justice fiscale, elle est compliquée parce que Christiane nous dit moi j'ai 1000 euros de pension et je ne payais pas de taxes d'habitation. Peut-être que la voisine de Christiane, elle a 1500 euros de pension ou 2000 euros de pension et elle payait une taxe d'habitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a supprimé un impôt pour quelqu'un qui gagne plus d'argent que Christiane. Il y a des gens qui pensent que c'est pas juste. Encore une fois, la question de la justice fiscale, c'est une question compliquée, mais il faut l'aborder. Et pardon, mais ce grand débat, il permet ça. Et de ce point de vue-là, il est très utile. Il faut que les gens s'expriment sur qu'est-ce que c'est leur conception de la justice fiscale. Moi, j'y suis très prêt. Je pense que c'est un bon débat, c'est un débat sérieux, c'est un vrai débat politique au sens très noble de ce que c'est que la politique, la chose publique. Et je pense que c'est un bon débat.
J'ai pas oublié la fin de la question de Christiane qui parlait
sur l'indexation.
Absolument. De sa retraite.
Sur l'indexation. C'est vrai que nous avons pris une décision dont je mesure parfaitement qu'elle est impopulaire, de faire en sorte de bloquer l'évolution des pensions. On ne l'a pas fait ad vitam aeternam, on l'a fait pour 2 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le droit, c'est inscrit simplement pour 1 année. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on observe depuis longtemps. Alors, pardon, je vais prendre. Je vais prendre 2-3 minutes pour l'expliquer.
Pas 2-3 minutes, mais vous allez prendre un peu de temps, allez-y.
Ouais. En fait, ce qu'on constate, c'est que, heureusement, c'est une extraordinaire nouvelle pour tout le monde, nous vivons de plus en plus longtemps. Et vraiment, c'est une bonne nouvelle. Nous vivons de plus en plus longtemps. Et l'autre chose, ça veut dire qu'on touche dans sa vie de retraités plus longtemps des pensions, lesquelles sont payées par ceux qui travaillent. C'est normal, c'est le système de redistribution, on y est très attaché et j'y suis extrêmement attaché. Simplement, le nombre de gens qui cotisent pour le nombre de gens qui sont à la retraite évolue de façon défavorable. Bon, c'est comme ça, ça fait longtemps que ça dure. On a décidé de ne pas modifier l'âge de départ à la retraite. C'est une décision qui a été prise, qui a été portée pendant la campagne du président de la République. Mais ça veut dire que si on veut faire en sorte de favoriser le retour au travail d'un maximum de Français, faire en sorte de faire de la France une économie compétitive, nous avons voulu éviter que les cotisations qui pèsent sur ceux qui travaillent augmentent de façon trop rapide. Et pour ça, c'est vrai, nous avons demandé à l'ensemble de ceux qui bénéficient d'une pension un effort qui n'est pas un effort éternel, qui est un effort pendant 2 ans, pour faire en sorte de redistribuer du pouvoir d'achat vers les actifs.
Et la question va revenir, notamment quand on parlera CSG, Édouard Philippe. Bonsoir, Carole.
Bonsoir.
On vous écoute,
bonsoir,
Carole.
Monsieur le Premier ministre.
Bonsoir, madame.
J'aurais voulu quelques explications en ce qui concerne l'ISF, sur laquelle tout le monde se focalise. J'avais entendu dire que ce serait désormais un impôt sur le patrimoine. Autant de personnes seront-elles imposées? Quelles recettes va percevoir l'État?
Allez-y, Édouard Philippe. Les chiffres, d'abord, très simplement, sur ce qu'était l'ISF, ce qu'est l'IFI aujourd'hui,
bon, alors,
en termes de ressources.
Vous avez raison, Carole. L'ISF, ça représentait un peu moins de 5 milliards de recettes par an. Et ça a été remplacé par quelque chose qui s'appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, que payent ceux qui disposent d'une, ce qu'on appelle une fortune immobilière et qui rapporte un peu plus d'un milliard, un milliard et demi par an. Enfin, l'année dernière, c'était la première année où il existait. Donc, on a bien, non pas supprimé complètement l'imposition sur la fortune, mais fait en sorte que ce soit la seule fortune immobilière qui donne lieu au paiement d'un impôt de solidarité. Ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Ce qui est quand même une vraie question. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas l'ISF, qui disent, bah, ceux qui sont assujettis à l'ISF, ils gagnent. Ils ont tellement d'argent, soit tellement de patrimoine, soit tellement de revenus, soit les deux, qu'ils pourraient bien payer un petit peu plus. Je comprends parfaitement cette remarque. Je dis juste une chose, c'est que cet impôt de solidarité sur la fortune, qui est un symbole, qui était un symbole populaire, il avait, quand on l'a regardé et quand on le regarde, plus d'inconvénients qu'il n'avait d'avantages. Bien sûr qu'il avait des avantages. Bien sûr qu'il avait des avantages, mais il avait plus d'inconvénients au sens où les gens fortunés, d'abord les gens très fortunés, arrivaient souvent à le contourner, sans que personne n'arrive à leur interdire. Et surtout, les gens fortunés partaient de France. Et en partant de France,
mais ce
qu'est-ce
chiffre,
qu'on
pardon,
constatait
Edouard Philippe...
Non, je vais aller au bout, c'est vachement important. Qu'est-ce qu'on constatait? Enfin, pardon, c'est très important. Qu'est-ce qu'on constatait? Qu'ils partaient simplement. Ils partaient, et en partant, c'était pas simplement le paiement de l'impôt sur la fortune qu'ils arrêtaient, c'était le paiement de tous les autres impôts. Autrement dit, on constatait que ce symbole de l'ISF conduisait à une diminution de la ressource fiscale globale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France était le dernier à l'avoir, et des pays, y compris des pays qui sont extrêmement attachés à cette notion de justice fiscale, je pense notamment à la Suède, l'avaient supprimée. Et donc, moi, mon sentiment, Carole, c'est que si on veut faire, comme vous dites, payer les riches, il vaut mieux les attirer en France que les faire partir.
Mais on n'a aucun chiffre aujourd'hui qui permet de dire que oui, il y a eu des départs, il y a eu des retours plutôt depuis qu'il n'y a plus d'ISF,
non,
ni
mais
de chiffres,
revanche,
parce qu'effectivement, vous allez
revanche,
me dire qu'on va
revanche,
faire un
on a beaucoup de chiffres
état
qui montrent combien sont partis. Encore une fois, on ne part
sait pas
de
s'ils
rien,
sont
ça fait 40 ans qu'il existe.
Et on ne sait pas s'ils investissent, si l'argent qu'ils ont gagné est investi notamment dans les entreprises.
Et on est en train de faire travailler toute une série d'experts pour démontrer, plus exactement, pour étayer, pour documenter ce sujet. Mais on sait que pendant que l'ISF existait, il y avait des départs et on sait qu'il y avait une masse financière qui échappait de ce point de vue-là à la richesse nationale et à l'impôt, qui était considérable. Ça, on le sait, c'est établi. Et c'est pour ça que je crois, je le redis, c'est une formule, ça a le charme des formules, mais c'est vrai, je le pense profondément, il vaut mieux faire en sorte que les gens viennent investir en France, restent en France, viennent s'installer en France. Je pense par exemple à ces banquiers qui jusqu'à présent travaillaient à Londres, mais moi je veux qu'ils viennent à Paris et je veux qu'ils payent leurs impôts à Paris. Je veux pas qu'ils s'en aillent en Belgique, je veux pas qu'ils s'en aillent en Suisse ou qu'ils s'en aillent ailleurs.
En les exemptant donc d'une partie de ces impôts-là, Yael Gauz, pauvrette, qui reste ici depuis 40 minutes et qui n'a pas pu ouvrir la bouche. Allez-y, Yael.
Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Là, on est au cœur peut-être des paradoxes du grand débat. Sur l'ISF, vous maintenez évidemment la mesure, la réforme que vous avez menée. Si la proposition émerge largement, et c'est déjà le cas dans les contributions et sur le site franceinter.fr, d'un retour à la version initiale de l'ISF, Est-ce que vous pourrez bouger ou est-ce que là, vous avez déjà fermé la porte?
Le président de la République a expliqué qu'un certain nombre de choses sur lesquelles il s'était engagé dans la campagne présidentielle, il a formulé un programme, il en a justifié les dispositions, bon, et il a été élu. L'objectif, c'est pas de faire en sorte que le grand débat remplace la campagne présidentielle. L'objectif, c'est de faire en sorte que sur toute une série de sujets, on vienne compléter le projet national, qu'on vienne nous indiquer ce que fondamentalement les Français souhaitent. S'ils souhaitent s'exprimer sur l'ISF, ils s'exprimeront sur l'ISF.
La compréhension est massive sur ce sujet-là.
Mais on est encore une fois, la compréhension est massive. Je pense que tout le monde a bien en tête le symbole de l'ISF. C'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui comprennent très bien le fait que quand il y avait l'ISF, il y avait des gens qui partaient. Et enfin, pardon, mais ce débat il a existé. On n'est pas né ici il y a 18 mois sous le quinquennat de François Hollande, quand il y a eu des questions sur un taux marginal à 75% sur les gens qui avaient plus de 1 million ou 2 millions. On a eu ce débat sur le fait qu'il y avait des Français qui partaient. Ça s'est constaté. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est le monde tel qu'il est et qu'on doit aussi le prendre en compte. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de tabou. C'est important que les Français disent ce qu'ils entendent par justice fiscale. Moi, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Et d'ailleurs, vous avez dit que j'avais fait un débat. Je l'ai fait à Sartrouville vendredi soir. Il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés. Et je vous garantis qu'ils n'avaient pas tous la même idée de ce que c'était que la justice fiscale.
Vous êtes toujours sur France Inter, téléphone sonne XXL avec le Premier ministre qui dialogue avec vous. Et c'est vous, Claude, qui pouvez dialoguer maintenant avec le Premier ministre. On vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci, bonsoir, merci de prendre ma question. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Voilà ma question.
Bonsoir,
elle est relativement simple et concrète. Je suis retraité et ça concerne en fait la suspension de la hausse de la CSG sur les retraites. Alors voilà, moi, mon interrogation, c'est est-ce qu'admettons, si on prend 2000 euros le plafond concerné, est-ce que ce sont donc tous les retraités et toutes les sommes perçues en dessous de 2000 euros qui vont être concernées et seulement au-dessus de 2000 euros, non, effectivement, seront pas concernés, parce que sinon, celui qui touche 2001 euros, il sera grugé par rapport à celui qui a 1999. Et juste, si vous me permettez une petite remarque très rapide, j'ai passé ma vie, c'est-à-dire 40 ans, à travailler dans le secteur associatif. Or, vous savez, les associations sont administrées par des bénévoles qui, à 80%, sont des retraités et qui sont un équilibre indispensable pour notre société parce que sinon, les jeunes ne feront pas ni sport, ni activité culturelle. Et je trouve qu'entre ça et la désindexation, ça n'a pas été très fair-play de la part du gouvernement de s'attaquer aux retraités. Voilà, merci et bon courage, monsieur le Premier ministre.
Merci, Claude, et merci pour votre encouragement de fin de question. Et vous posez une question qu'on me pose souvent et qui est parfaitement légitime. D'abord, si je peux me permettre, Claude, je mesure très bien ce que vous indiquez sur le rôle des retraités dans la vie, qui n'est pas simplement la vie du pays, qui est la vie sociale, la vie associative, la vie profonde, la question de la transmission, la question de l'engagement bénévole. Je le constate dans ma famille, je l'ai constaté quand j'étais maire du Havre. C'est évidemment un rôle indispensable et personne, en tout cas certainement pas moi, ne songe à le remettre en cause. Sur la question de la rémunération et sur la question de la CSG que vous avez évoquée, je redis un mot sur le sens de la mesure que nous avons prise. Nous avons souhaité faire en sorte que la protection sociale dans son ensemble ne repose plus simplement sur le travail, c'est-à-dire sur une taxation du travail, mais puisse reposer sur une taxation sur l'ensemble des revenus. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est plus juste et qu'il faut revaloriser le travail. Et donc, c'est vrai, pour financer la protection sociale, nous avons baissé les cotisations salariales, et les salariés en ont bénéficié, et nous avons augmenté la CSG. La CSG sur tous les revenus. Les pensions, comme le dit Claude, mais aussi les revenus du capital, ils sont assujettis à la CSG, l'ensemble des revenus, y compris d'ailleurs les revenus du travail. Et pour le faire, en prenant en compte, justement, je le dis non pas du tout comme une provocation, mais c'est parce que c'était l'esprit de la mesure, pour le faire avec un esprit de justice fiscale, nous avons fait en sorte que ceux qui ont les plus petites pensions, les 40% de retraités qui se trouvaient en dessous du seuil, ne subissent pas cette augmentation de la CSG.
Vous avez révisé votre copie quand même, monsieur le Premier ministre.
Nous avons ensuite, parce que nous avons vu que cette mesure n'était pas acceptée, qu'elle suscitait, mais c'est vrai, parce qu'elle suscitait beaucoup de...
On parlait de symboles tout à l'heure sur l'ISF, il y a d'autres symboles.
Parce qu'elle suscitait beaucoup de contestations, parce que des Français comme Claude qui vient de s'exprimer indiquaient que ça n'était pas supportable. Nous avons modifié la copie en faisant en sorte que cette fois-ci, non pas que 60% payent l'augmentation de la CSG et 40% n'y soient pas assujettis, mais que 30%, les 30% les plus riches des retraités, ça ne veut pas dire qu'ils sont très riches, mais les 30% des retraités qui gagnent le plus voient l'augmentation de leur CSG s'appliquer et qu'en dessous de ce seuil, les autres aient soit la même taux qu'avant, soit pas d'augmentation. Et donc là encore, la question qui se pose, c'est la question générale, c'est la question de la justice fiscale. Nous avons, encore une fois, il ne s'agit pas de punir ou les retraités. Les retraités, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont participé à la création de la richesse du pays, ils donnent encore beaucoup de leur temps en termes d'accompagnement social, d'investissement personnel.
Vous n'aimez pas les retraités, collectif. Monsieur Macron, et ni vous, Monsieur le Premier ministre, c'est ce que nous dit Guy sur France Inter.
Mais je suis en désaccord avec Guy, je peux le lui dire, et je ne suis pas sûr qu'il... J'espère qu'il m'entend, j'espère qu'il me comprend, ça n'est pas vrai.
Monsieur le Premier ministre, je voudrais qu'on change de thème, qu'on avance un peu, parce qu'il y en a beaucoup dans le grand débat, et aussi là au 01 45 24 7000, et aussi sur le Facebook Live. Tiens, voilà Olivier qui nous dit, Monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous augmenter les profs?
C'est une bonne question. Il y a 880 000 professeurs aujourd'hui en activité en France. Ils vont bénéficier, je le dis très tranquillement, ils vont bénéficier à partir de l'année 2019 d'une augmentation de leur pouvoir d'achat. Ils vont le faire de plusieurs façons. D'abord, de façon générale, parce que nous allons appliquer à l'éducation nationale ce qu'on appelle le PPCR, c'est-à-dire une mesure qui va permettre d'augmenter d'un milliard d'euros sur le quinquennat la masse salariale globale qui va à destination des professeurs de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Donc, c'est une augmentation de leur pouvoir d'achat qui est très nette et qui concerne tous les professeurs. Et puis, à côté de cela, il y a d'autres mécanismes qui vont contribuer à l'augmentation du pouvoir d'achat des professeurs. Pour ceux qui exercent dans les zones dites REP+, il y a une augmentation importante de 1000 euros par an, annuel, par an, 2018, 2019, 2020. C'est pas du tout neutre, hein. Ça veut dire qu'il y a une réelle augmentation du pouvoir d'achat pour ces professeurs qui enseignent dans des zones qui sont considérées comme les plus difficiles. Et puis il y a la mesure que nous avons mise en œuvre qui va s'appliquer aussi aux professeurs sur les heures supplémentaires qui vont être dispensées de paiement de l'impôt sur le revenu et de cotisation, ce qui veut dire que là encore, les professeurs qui font déjà une heure ou deux heures d'heures supplémentaires vont avoir une augmentation de la rémunération de ces heures supplémentaires. Au total, il y aura une augmentation du pouvoir d'achat qui sera largement supérieure, Madame Saint-Esse, à l'évolution de l'inflation.
Et on continue sur ce thème-là, celui notamment des fonctionnaires. Annie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bonsoir, la dernière bonsoir, de la première heure, Annie, on vous écoute.
Alors, bonsoir Monsieur le Premier ministre, je voulais vous dire que je suis époustouflée par les décisions que vous prenez. Je suis donc dans le territoire rural, vous fermez des hôpitaux, vous fermez des classes, j'en passe. Et vous avez dans le débat public du jour la demande de maintenir tous les services publics sur mon territoire. Et qu'est-ce que je lis dans la presse? Que vous avez un projet de supprimer 120 000 fonctionnaires. Donc, est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est... Je ne comprends pas qu'alors que tous les week-ends, je vous entends dire que vous voulez limiter les mouvements des Gilets jaunes, dont je ne fais pas partie, et je lis ça dans la presse, mais je trouve ça complètement... surréaliste.
Merci.
Et je ne comprends pas.
Merci Annie. L'objectif de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici à la fin du quinquennat est maintenu. C'est Olivier Dussopt qui dit ça. Qu'est-ce qu'on répond à Annie?
On répond que la question c'est moins de se fixer un objectif de totem de 120 000 postes qu'il faudrait supprimer dans la fonction publique que de se poser la question de savoir si on peut faire fonctionner l'État, les administrations, les services publics, les collectivités territoriales avec un peu moins de dépenses publiques. Avec un peu moins de moyens. Et il se trouve, je crois, que dans certains domaines, pas dans tous, d'ailleurs il y a beaucoup de domaines dans lesquels on recrute des fonctionnaires, on augmente les effectifs, mais il me semble que dans un certain nombre de domaines, en s'organisant différemment, on peut faire en sorte de réduire un peu les effectifs. Et juste un mot, je le dis parce que Annie est manifestement inquiète et opposée à ces mesures.
Elle est remontée contre vous.
Oui, mais je l'ai entendu. Et elle dit, il s'agit de supprimer des fonctionnaires. On ne va pas supprimer des fonctionnaires. Les fonctionnaires, il ne s'agit pas de les supprimer. Il s'agit de faire en sorte de réorganiser notre fonctionnement pour qu'on puisse faire mieux. Et on doit faire mieux. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels on doit faire mieux. Parfois,
exemple, rapidement.
Avec moins. Mais dans tous les domaines. Moi, je l'ai fait dans les services de la ville du Havre. Il y a un certain nombre de missions qu'on peut accomplir en s'organisant un peu autrement avec un peu moins de monde. Vous savez, c'est pas un gros mot de dire ça. Aujourd'hui, le nombre de fonctionnaires continue à croître. Il a considérablement cru dans les 10 ou 15 dernières années. Je suis pas sûr que cette augmentation du nombre de fonctionnaires qui a véritablement en France cru dans les 10 ou 15 dernières années, ce soit traduit pour Annie ou pour beaucoup de nos auditeurs par une amélioration de la qualité du service public. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il faut en permanence se poser la question de savoir comment est-ce qu'on adapte nos moyens et se poser la question de combien on dépense, de comment on dépense, c'est aussi des questions très saines. Et il ne faut pas le faire en se disant qu'on va faire la peau aux fonctionnaires, c'est pas du tout mon idée. C'est simplement de dire on doit pouvoir, dans certains domaines, peut-être pas dans tous, quand on a besoin de plus de gens, eh ben il faut en recruter, mais on doit pouvoir, dans certains domaines, réorganiser les choses, tenir compte du progrès technologique, tenir compte de nouvelles façons de travailler, pour avoir un peu moins de monde. C'est possible.
Donc vous aviez dit, le chiffre là c'est 120 000, vous dites que c'est pas un totem, donc ça veut dire que ça peut être moins quand même, mais ou pas
au fond, c'est absurde de raisonner en se disant d'emblée, l'objectif c'est 120 000. L'important c'est de transformer la façon de faire pour faire mieux. Voilà, bon. Mais j'ai la conviction qu'en transformant pour faire mieux, on peut in fine en tirer les conséquences et avoir un peu moins d'agents. Est-ce que vous me permettez de donner un exemple ?
Allez-y, mais encore une fois, ce que je vois et ce que je lis, c'est que c'est un chiffre que vous aviez fixé, mais donc vous tenez au chiffre que vous aviez fixé.
Mais bien sûr, c'est un objectif que j'assume parfaitement. Je
50 000
dis ça.
Dans la fonction publique d'État, 70 000 dans la fonction publique territoriale.
Mais je vais vous en donner un exemple.
Rapidement.
Au mois de janvier, tout le monde a vu, nous sommes passés au prélèvement à la source. La façon de prélever l'impôt s'est transformée. En faisant cela, il se trouve que beaucoup de ceux qui travaillaient sur l'IRPP jusqu'à présent vont pouvoir soit faire autre chose, et ils feront autre chose, on va pas les sortir de l'administration, mais qu'on peut faire la même chose avec moins de gens. Il serait fou de pas en tirer les conséquences.
Monsieur le Premier ministre, on va se retrouver...
Si on supprime la taxe d'habitation, les fonctionnaires qui travaillent
après,
sur la taxe d'habitation,
et on y reviendra.
On peut peut-être se dire que c'est pas indispensable d'en garder... Voilà.
Il y a d'autres questions autour de ce même thème, on pourra les aborder dans l'heure qui suit. Il est 19h59 sur France Inter, vous restez avec nous, on est toujours dans un téléphone Sony XXL.
La 15e question, c'était par rapport à certains services publics.
J'ai des aides qui me rapportent plus que ce que vous me proposez comme travail.
Et ces gens-là, il faut qu'ils sachent nous répondre en proximité.
Service public, service gratuit.
Et donc, je crois qu'il faudrait penser à passer d'une fiscalité du travail à une fiscalité des activités polluantes. Il n'y a plus de travail pour tout le monde.
Ce qui est en train de se passer, c'est plus qu'une évolution, c'est en quelque part une révolution.
Le sujet ne s'épuise pas, vous êtes très très nombreux à nous appeler au 01 45 24 7000, à laisser des messages sur le Facebook Live et sur Twitter, à vouloir dialoguer avec le Premier ministre. On est ensemble jusqu'à 21h, on a du temps. Les thèmes que vous avez choisis, évidemment, c'est vous qui faites l'émission et c'est André qu'on entend tout de suite. Bonsoir André, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce temps d'écoute. Et puis je voudrais apporter un témoignage d'aidant. Donc je souhaite attirer l'attention sur les conséquences de la dématérialisation des services publics. Aujourd'hui, c'est une grande source d'exclusion et pour beaucoup de personnes, finalement, on s'en rend compte quand on les fréquente. Donc il y a les personnes illettrées, c'est 2,5 millions en France, 7%. Il y a les personnes âgées. Il y a tous ceux qui ne sont pas illettrés, mais qui n'ont pas la compétence pour faire certaines démarches sur Internet, qui restent assez difficiles quand on n'a pas le conseil. Il y a les exclus du numérique, qui n'ont ni ordinateur, ni scanner, ni imprimante. Parfois, dont j'habite en Dordogne, il n'y a même pas accès au réseau. Donc, mon expérience montre que ces publics, ils auront toujours besoin d'une personne physique en face d'elles pour les assister. Et donc, j'avais une question pour Monsieur le Premier ministre.
Allez-y, André.
Pense-t-il que ce soit aux bénévoles et aux aidants de répondre à ces missions de conseil et d'assistance qui étaient assurées autrefois par des fonctionnaires, ou a-t-il une autre solution? Et puis je voudrais apporter...
Rapidement, André, si vous le voulez bien.
Juste un témoignage sur ces difficultés. Dans le cadre des dossiers que j'ai instruits, actuellement j'essaie d'aider pour la prime à la conversion de 4 000 euros. Je m'aperçois que c'est très compliqué, même les garagistes ne savent pas répondre, même les concessionnaires, que personne ne veut faire l'avance des 4 000 euros, que le remboursement prend 7 mois et que les personnes les plus modestes n'ont pas les moyens de faire cette avance.
Et Edouard Philippe, vous avez entendu André, merci beaucoup. On va commencer par le début de la question d'André, Monsieur le Premier ministre, si vous le voulez bien. Les services publics, il y a même des gens qui nous proposent sur Facebook Live une espèce de maison des services publics, mais en fait, pour aider tous ces gens qui ont des difficultés.
Bon, alors on commence par la première, mais je voudrais répondre à la deuxième parce qu'elle est excellente.
Vous inquiétez pas.
Sur la dématérialisation, sur le fait qu'on puisse avoir recours au numérique. Ouais. D'abord, il faut quand même se dire une chose, ça peut être un formidable plus. Ça peut être un formidable plus en termes de simplicité d'usage pour beaucoup de gens. On l'a vu parfois dans les relations avec les centres des impôts. Enfin, ça peut être quelque chose de formidable qui peut éviter parfois, permettre d'éviter de se déplacer, qui peut permettre d'aller plus vite. Bon, donc, on ne va pas jeter la technologie avec l'eau du bain. C'est pour beaucoup de gens, sur beaucoup de sujets, un formidable plus. Mais André a raison. Il y a des gens qui n'ont pas accès à ce formidable plus. Soit parce qu'ils ne savent pas s'en servir, et ça n'est pas honteux. Ils ne savent pas s'en servir. Soit parce qu'ils n'ont pas accès aux machines qui sont indispensables pour avoir accès au numérique. Et il faut le prendre en compte. Soit parce qu'ils
ont un très mauvais accès à Internet.
Soit parce qu'ils ont un très mauvais accès à Internet. Et ça arrive encore, même si, permettez-moi de le dire, nous travaillons activement pour développer le réseau en France. Et nous sommes en train d'obtenir des résultats. Mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, André a raison. Comment est-ce qu'on fait pour aider ceux qui n'ont pas accès ou même ceux qui ne souhaitent pas passer par la voie numérique? Après tout, ça peut se respecter aussi. Je crois très profondément qu'il faut d'abord développer tout ce qui est accès, formation, bien entendu. Mais il faut faire en sorte que l'administration s'organise pour être à la disposition de ceux qui n'ont pas accès.
Est-ce que l'administration peut aller à la rencontre des amis d'André?
Mais bien sûr. Il existe en France des maisons de services publics qui ne sont pas simplement des bâtiments administratifs de l'État, mais qu'on voit parfois dans des mairies, parce que les maires ont souhaité justement développer. Comme toutes les administrations aujourd'hui peuvent se mettre en réseau, il faut faire en sorte que l'effort il ne repose pas sur celui qui ne peut pas le faire, mais qu'il repose sur les fonctionnaires de ces réseaux, sur ceux qui font vivre ces maisons de services publics. On va développer le nombre de ces maisons de services publics. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il puisse y en avoir tellement dans le territoire, que ce soit simple.
Oui, parce qu'il faudra y avoir accès. On va revenir à la fracture territoriale tout de suite.
Que ce soit simple pour toute personne qui a besoin d'être accompagnée, d'aller voir quelqu'un dans une maison de service public qui, grâce au numérique, cet agent public, qu'il soit agent municipal ou fonctionnaire de l'État, aura lui accès à l'ensemble des données et à l'ensemble des procédures et pourra aider ceux qui ont besoin légitimement d'être aidés. C'est ça l'objectif. Et on peut le faire, ça prend du temps, ça veut dire de la réorganisation, ça veut dire des dépenses d'investissement, ça veut dire des dépenses de formation, ça n'est pas immédiat.
Ça veut dire des fonctionnaires.
Mais c'est déjà engagé et je suis certain que grâce à ça, ceux qui peuvent bénéficier de la révolution numérique bénéficieront d'un plus formidable et ceux qui se trouvent parfois un peu en marge, et il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les laisser sur le côté du chemin, pourront aussi accéder à des services publics auxquels ils doivent pouvoir accéder.
Il y avait la deuxième partie de la question d'André, les fameux 4 000 euros.
La deuxième partie de la question d'André, alors elle est parfaite au sens où elle illustre très bien quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Il y a un dispositif qui aide financièrement ceux de nos concitoyens qui veulent changer de voiture pour avoir un véhicule moins polluant, plus propre. Bon, ça veut dire qu'il y a une contribution nationale, de l'argent mis à disposition pour aider des gens à faire des choix qui sont vertueux. C'est formidable. Sauf si c'est tellement compliqué qu'on ne sait pas s'en servir et que ça ne prospère pas. Alors, s'agissant de la prime à la conversion, vu le nombre de demandes et vu le succès de l'opération, je sais que ça a répondu à un besoin très fortement exprimé dans la population française, mais André a parfaitement raison. On peut faire mieux, on peut faire beaucoup plus exactement, on peut faire beaucoup plus simple. Et vous savez, c'est quelque chose, et le grand débat, il doit être utile à ça. Il faut aussi qu'on arrive à définir les systèmes publics d'aide aux personnes, non pas seulement en fonction de ce que le système public peut faire, mais en fonction de ce que les personnes souhaitent. C'est-à-dire, imaginez, Madame Synthèse, qu'on arrive à trouver le système dans lequel celui qui veut changer son véhicule, au lieu d'aller voir 3 administrations différentes, de faire 3 demandes, il a un interlocuteur et on lui simplifie financièrement.
Je suis bien d'accord avec vous, mais quand on met en place, pardon de vous le dire comme ça, quand on met en place une prime à la conversion, pourquoi c'est pas comme ça que ça se passe? Qui décide qu'il faut aller voir 3 personnes
alors,
et remplir 12 papiers?
Il ne faut pas forcément aller voir 3 personnes, mais c'est vrai que les circuits de comment je dirais, le calibrage des mesures n'est pas toujours bon. Disons-le, c'est pas neuf, on doit pouvoir s'améliorer. Et un des éléments du grand débat, et d'ailleurs vous l'avez peut-être vu dans ce que vous appelez, ou ce que parfois les gens appellent le cadrage du grand débat, c'est une question qu'on pose. Comment est-ce qu'on peut faire pour que vous, si vous voulez procéder au changement de votre chaudière qui fonctionne jusqu'à présent au fioul et qui donc vous coûte cher et vraiment produit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit le plus simple pour vous? Parce que financièrement, il y a des moyens pour vous aider. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait un seul interlocuteur et même que financièrement ce soit quasiment neutre
y compris au moment du changement. Il y a des instruments pour ça. Il y a des domaines dans lesquels les entreprises, les banques savent faire ça. Alors, il faut qu'on arrive à définir des instruments publics qui soient plus adaptés à la demande.
Terrible naïveté, mais effectivement, pourquoi ça n'existe pas? Paraît tellement simple quand vous nous l'expliquez, ça doit être un peu plus compliqué.
Peut-être parce qu'on pense trop souvent en silo, peut-être qu'on ne veut pas suffisamment changer les choses. Vous savez, quand je vous dis on peut s'organiser différemment pour faire mieux, vous me dites oh bah, ça va être compliqué. Ça veut dire ça aussi. On doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins d'interlocuteurs, un seul interlocuteur, que ça aille plus vite, que ce soit plus simple, qu'on fasse moins la dépense d'avance,
oui,
parce qu'on la lisse dans le temps. C'est possible. Ça demande une ingénierie, pardon d'utiliser ce terme, mais ça demande une ingénierie qui aujourd'hui n'est pas suffisamment développée. Moi, j'ai la conviction qu'on peut le faire. J'en suis absolument certain. Il faut y travailler.
Question de Simon. Bonsoir, Simon.
Bonsoir.
Et bienvenue dans le téléphone sonne. Le Premier ministre vous écoute, Simon, allez-y.
Alors moi, j'avais une question sur la différenciation territoriale. J'ai vu que dans la révision constitutionnelle, il était prévu de différencier les compétences des collectivités pour s'adapter aux spécificités des territoires. Et du coup, je me demandais quels étaient les éléments de langage que vous alliez utiliser pour nous garantir qu'il y aurait une égalité de traitement des administrés, alors que on peut remarquer... en regardant les exemples étrangers, qu'à chaque fois qu'on fait de la différenciation territoriale, ça se traduit par plus de compétences pour les grandes métropoles et une dégradation du traitement des administrés dans les petites communes. Et du coup, j'avais une proposition.
Allez-y.
Puisque vous voulez baisser les dotations globales de fonctionnement, puisque vous voulez donner moins d'argent aux collectivités,
vous
voulez maintenir au même niveau les dotations de fonctionnement, alors même qu'elles ont diminué sous Sarkozy, sous Hollande, et qu'aujourd'hui elles sont à un niveau ridicule, je vous propose de remplacer la fongibilité verticale par de la fongibilité horizontale. C'est-à-dire que, enfin, pas de la fongibilité, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros faire que les collectivités qui ont beaucoup plus de ressources financent en quelque sorte, soient solidaires vis-à-vis des collectivités qui ont moins de ressources.
Mais Simon, pardon de vous le dire comme ça, mais c'est déjà ce qui existe. Il y a énormément de fonds de péréquation qui font que des communes qui font que des communes ou des collectivités qui sont regardées comme ayant plus de ressources, ça veut pas dire d'ailleurs forcément qu'elles sont très riches, mais enfin qui ont plus de ressources, versent pas des petites sommes, mais des sommes considérables, en péréquation à des communes ou à des collectivités territoriales qui sont plus pauvres. Ça existe déjà. Heureusement, d'ailleurs, c'est une forme de solidarité horizontale qui existe entre les communes, qui existe aussi entre les départements, qui est légitime, que d'ailleurs, au fond, personne ne remet en cause sur le principe, même si parfois les gens voudraient que ce soit plus simple et surtout plus prévisible dans leur évolution. Mais enfin, néanmoins, ça existe. Je me permets de corriger Simon, mais enfin d'exprimer mon désaccord. Vous dites vous voulez baisser les dotations aux collectivités territoriales, mais pas du tout. Mais au contraire, Simon, les dotations aux collectivités territoriales, je peux vous en parler parce que je l'ai vécu quand j'étais maire du Havre. Elles ont d'abord été gelées et ensuite elles ont diminué. Elles ont été gelées pendant que Nicolas Sarkozy était président de la République, puis ensuite elles ont été diminuées. Et pas diminuer un peu, diminuer violemment quand François Hollande était président de la République. Bon, les collectivités territoriales, elles ont absorbé cette baisse. Parfois, elles ont augmenté leurs impôts, parfois, elles ont fait des économies, parfois, elles ont fait les deux, parfois, elles ont accru leurs dettes. Elles ont géré cette évolution qui était difficile de leurs ressources, de la façon dont elles ont pu, d'une certaine façon. Nous, on a dit que l'enveloppe générale de dotation versée aux collectivités territoriales ne serait plus diminuée. On l'a dit et on l'a fait. Alors, ça veut dire que sur les 36 000 communes, il y en a certaines qui ont quand même vu leurs recettes augmenter, enfin leurs ressources augmenter et d'autres baisser, parce qu'il y a aussi des jeux entre les communes. Il y a des communes qui baissent de population, donc parfois leur dotation diminue. Mais néanmoins, globalement, et j'y insiste, nous avons fait en sorte que ces dotations soient fixes et qu'elles ne diminuent pas. Et c'était pas du luxe, je vais vous dire. C'était pas du luxe compte tenu de l'effort qu'elles avaient fait auparavant. Si en revanche, Simon, vous me dites qu'il faut repenser les relations financières, le fonctionnement des dotations qui est horriblement compliqué. Il y a 42 critères qui expliquent l'évolution de la dotation globale de fonctionnement. J'ose à peine vous le dire, tellement c'est incompréhensible. Eh ben, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, on s'y est engagé. On peut tout à fait mettre ça sur la table et regarder avec les collectivités territoriales, singulièrement avec les communes, comment est-ce qu'évoluent ces relations. Et Simon m'a posé
rapidement,
la première question.
Premier ministre, s'il vous plaît.
Je sais, mais il m'a posé la première question sur la différenciation.
Ouais.
Ça, c'est une question politique exceptionnelle. Et c'est une vraie question. On vit dans une république. On vit dans une république qui a une tradition de parfois centralisatrice, parfois d'égalitarisme, parfois très jacobine. Bon, mais on vit dans une république décentralisée, où les collectivités territoriales sont libres de s'administrer et où elles ne vivent pas la même chose toutes. Parce que l'Alsace, c'est pas la Bretagne, parce que une ville comme le Havre, c'est pas un village de la Creuse. C'est pas la même chose. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on autorise chacune des collectivités territoriales, dans le respect de la loi, dans le respect de la Constitution, à exercer de façon différente des collectivités, à prendre certaines compétences que les autres n'ont pas envie de prendre. C'est une question sur la façon dont on voit le pays, c'est une vraie belle question politique. Moi j'y suis prêt, et je pense qu'il y a beaucoup d'élus de droite ou de gauche qui y sont prêts. Mais c'est une question qu'on peut parfaitement entendre et soumettre au débat dans la question des institutions telle qu'elle a été engagée.
Et monsieur le Premier ministre, voilà, j'allais dire l'un de vos anciens collègues, puisque c'est le maire d'une commune, d'une petite commune, qui nous appelle. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir monsieur le Premier ministre, bonsoir à madame Saint-Ès.
Bonsoir Laurent.
Alors, j'en profite pour demander dans ce cas-là, qui sera l'arbitre, monsieur le Premier ministre, pour savoir de la prise de compétences différenciée entre les communes. Si c'est les préfets, on risque d'avoir de nouveau un arbitrage national et une application assez verticale, voire intransigeante, de ce genre de mesures. Mais pourquoi pas ? Ceci étant, moi je vous appelais, puisque vous avez été maire, comme vous l'avez dit, et vous manœuvriez tous les impôts locaux, à savoir taxes sur le foncier bâti, non bâti, taxes d'habitation, pour permettre de financer à la fois votre fonctionnement et vos investissements à moyen et long terme. Or maintenant, c'est l'État, alors sans doute pas sous la même forme que la dotation, la DGF, qui va compenser la taxe d'habitation. Tous les maires étaient d'accord pour dire que c'était un impôt injuste, puisque assis sur des valeurs locatives non réformées depuis très longtemps, je crois 1957 enfin.
Un peu moins, mais 45 ans, oui, c'est trop long.
Voilà, c'est très ancien. Et c'est vrai que l'injustice venait de là. Et on en était tous
notamment,
d'accord.
Oui.
Voilà. Monsieur le Président a choisi d'en exonérer tous les Français. Enfin, en tout cas, ça me paraîtrait une mesure d'équité si c'était tous les Français. Et les collectivités vont devoir continuer de pouvoir se projeter dans l'avenir et d'investir. Nous avons une DGF qui n'est pas équitable entre les petites communes et les grosses communes, puisque à l'habitant, on peut recevoir entre 4 à 10 fois moins.
Et Laurent, pardon de vous interrompre, Laurent, mais je voudrais pas qu'on ait un débat de maire extrêmement complexe. J'ai peur qu'on ait perdu beaucoup de gens là dans votre question. Est-ce qu'on peut aller à la question que vous avez pour le Premier ministre, s'il vous plaît ?
La question pour le Premier ministre, c'est comme nous ne maîtrisons plus l'outil de compensation de la taxe d'habitation, comment fait-on pour montrer aux habitants qu'il y a un lien concret entre les impôts qu'ils payent à un endroit et les services publics qui leur sont rendus, crèches, écoles, postes, mairies, MSAP, enfin voilà, ça c'est concret.
Et merci beaucoup.
Et voilà, merci.
Merci beaucoup, Édouard Philippe.
Monsieur le maire, vous posez une question qui est très importante, elle est posée avec des termes techniques, parce que la réalité est technique, mais dessous, vous savez parfaitement, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, qu'il y a une vraie question politique, c'est le lien entre l'habitant, et l'impôt, le service public et les décisions qui sont prises. C'est presque le principe de base de la politique. Donc c'est une question. Je voudrais vous y répondre de deux façons. D'abord, on supprime la taxe d'habitation. On le fait par une façon. Je rentre pas dans le détail, qui est un dégrèvement, ce qui fait que les communes n'y perdent rien. L'État se remplace les contribuables locaux et les communes ne perdent rien dans la façon dont nous faisons en sorte de faire disparaître dans les 3 ans qui viennent la taxe d'habitation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et vous avez raison, c'est qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que sera la fiscalité locale demain ? Comment est-ce que les collectivités locales vont pouvoir bénéficier de ressources fiscales et de ressources en dotation ? Et ça, c'est une discussion qui est engagée et qu'il va falloir trancher. On l'a engagée avec les associations d'élus. On va l'avoir devant le Parlement. Et ce que vous dites sur la nécessaire conservation d'un lien entre le contribuable local et les finances de sa commune est quelque chose auquel je suis très sensible. C'est la raison pour laquelle, dans les discussions avec l'AMF, dans les discussions avec l'Association des maires ruraux aussi, nous essayons de prendre en compte cela pour imaginer une fiscalité locale demain qui soit à la fois juste, mais qui soit plus efficace et aussi, si c'est possible, plus simple, ce qui n'est pas facile.
Allez, je voudrais qu'on avance. Bonsoir Samuel.
Oui, bonsoir, merci beaucoup.
Allez-y, on vous écoute Samuel.
Eh bien, merci à vous pour votre accueil, pour votre écoute. Donc, on m'a demandé de faire court. Je suis donc d'assez près le mouvement des Gilets jaunes depuis quelque temps. Beaucoup de revendications avec lesquelles je suis très d'accord et que je trouve légitimes. Et petit à petit, ce qui m'a intéressé le plus, c'est de donc tenter de changer le système en profondeur. D'où mon intérêt très fort pour le RIC, le référendum d'initiative en toute matière, dont on entend beaucoup en parler en ce moment, qui me semble être un outil démocratique, intelligent et encourageant surtout l'implication citoyenne directe aux décisions du pays. Donc moi, je me suis pas mal impliqué là-dessus. Je trouve que c'est vraiment captivant, passionnant, très intéressant et j'aimerais connaître le point de vue de Monsieur Philippe sur ce sujet. J'ai entendu celui de Monsieur Macron il n'y a pas longtemps. Les contre-arguments qui étaient mis en avant me semblaient assez malhabile et faux d'après tout ce que moi j'ai pu découvrir sur le sujet.
Merci beaucoup Samuel. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le RIC vous hérisse toujours ?
Alors, je vais répondre à Samuel par une réponse qui pourrait être, sembler être une réponse de Normand, mais qui n'est pas une réponse de Normand. Je suis à moitié d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on fait participer nos concitoyens à la décision publique ? Comment est-ce qu'ils sont associés directement aux décisions ? C'est une question très sérieuse et c'est une très bonne question. Et la question du RIC, de ce référendum d'initiative citoyenne, est une bonne question. Il faut en débattre, il faut qu'on échange des arguments là-dessus. Là où je suis moins d'accord avec lui, c'est sur l'intérêt de cet instrument. Moi, puisqu'on rentre dans ce débat, chacun fait part de ses convictions, il nous a dit qu'il était plutôt favorable. Moi, j'y suis plutôt défavorable. Je l'ai dit dans une formule qui a parfois fait sourire, le RIC, ça me hérisse. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que je ne suis pas du tout opposé à l'idée d'un référendum pour faire prendre des décisions publiques. Il y a des gens en France qui sont très contre le référendum. Il y a une vieille habitude politique en France de dire le référendum c'est un instrument bonapartiste, il ne faut pas faire de référendum, c'est dangereux. Bon, moi, je suis plutôt favorable à l'idée qu'on puisse utiliser le référendum. Mais je crois que c'est un instrument qui s'encadre. Il est d'ailleurs très encadré dans la Constitution de 1958. On ne peut pas faire des référendums sur tout, on ne peut pas les faire dans n'importe quelles conditions.
Mais personne ne dit qu'il ne faut pas les encadrer, y compris ceux qui sont favorables au RIC.
Je déroule mon argument. Ce que je crois compliqué dans le RIC, c'est que il me semble être un instrument qui permet de revenir de façon systématique sur des décisions qui sont prises dans le cadre de la démocratie représentative.
Donc c'est ça l'encadrement en fait, c'est de pouvoir dire oui au référendum d'initiative citoyenne, mais on ne revient pas sur un certain nombre de choses qui ont été votées.
Aujourd'hui, il y a un référendum d'initiative partagée qui fonctionne pas très bien. À mon avis, on peut le corriger et avoir un meilleur résultat qu'avec le RIC. C'est mon avis. Je pense qu'on peut faire en sorte qu'il soit plus facile de le déclencher. Et je pense qu'on peut faire en sorte de conserver les contrôles qu'il y a dans le référendum d'initiative partagée plutôt que de se lancer dans ce RIC qui me semble aller trop loin dans la remise en cause de la démocratie représentative.
Soyez plus précis, Premier ministre, changer les seuils du référendum d'initiative partagée, ouais. Combien ? Combien de Français, combien de citoyens ?
Parce qu'il faut d'abord beaucoup de députés et il faut beaucoup de...
Aujourd'hui, c'est 185 parlementaires et 4,5 millions de Français.
Exactement. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Il faut 185 parlementaires qui définissent un projet de loi, ce qui est un vrai sujet sur le RIC, qui définissent un projet de loi. Ce projet de loi, s'ils sont 185 à le signer, il est ensuite soumis pour examen au Conseil constitutionnel, pour savoir si on peut, s'il entre bien dans le champ de l'article 11, passons.
Ça, c'est l'existant, mais vous souhaitez quoi maintenant ?
Moi, je ne serais pas opposé à l'idée qu'on se pose la question de savoir si on diminue le nombre de parlementaires pour engager l'initiative.
Combien ?
Et si on diminue... J'ai pas de solution maintenant, mais je suis assez ouvert à l'idée. Et si on diminue le nombre de signataires, de pétitionnaires, pour faire en sorte que la question soit posée ? Une chose, en revanche, à laquelle je tiens, je vous le dis vraiment comme je le pense, c'est le contrôle du Conseil constitutionnel sur le champ d'application de ce référendum. Parce que je ne crois pas que dans notre démocratie, on ait intérêt à pouvoir organiser à n'importe quel moment des référendums sur tout. Et de ce point de vue-là, je me trouve dans une famille politique qui ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui pensent que le pouvoir, c'est toutes les questions, n'importe quand. Et ben moi, je ne crois pas. Je crois que la démocratie, elle a besoin d'un débat à l'Assemblée et au Sénat. Elle peut parfois poser la question du référendum, mais ça doit être encadré pour ne pas aller trop loin dans des décisions qui parfois sont très nuisibles à long terme.
Alors, exemple, parce qu'il y a énormément de questions, notamment sur Facebook Live, sur ce fameux RIC, le RIC, c'est pour quand, par exemple ? C'est ce que je lis ici. Exemple, puisqu'il y a un référendum d'initiative partagée qui est en train doucement de se monter, si la question c'est, faut-il rétablir l'ISF, oui ou non ? Est-ce que ça fait partie des questions que vous admettez dans le cadre d'un référendum ?
J'ai vu à l'initiative, je crois, du groupe socialiste, ou des deux groupes socialistes à l'Assemblée nationale et au Sénat, une tentative de faire fonctionner ce RIC. pardon, ce référendum d'initiative partagée, excusez-moi, j'ai confondu. On va voir si les conditions qui sont aujourd'hui fixées par la loi et par la Constitution sont atteintes. Très bien. On va voir si d'ailleurs, ce que je ne sais pas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je ne sais pas. On va voir si la possibilité d'un projet de loi qui porterait simplement sur l'ISF est bien dans le champ de l'article 11. Je ne sais pas ce que dirait le Conseil constitutionnel, je ne le sais pas. Mais voyez bien le sujet, qui est quand même intéressant. Vous avez une démocratie représentative. Vous avez un engagement qui a été pris par le président de la République. Il est voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Si on dit en permanence que ces engagements pris au moment d'une campagne présidentielle, votés par le Parlement, peuvent être mis en cause l'année suivante ou dans les deux années qui suivent, je crains, je le dis comme je le pense, qu'on rentre dans une remise en cause permanente de décisions et que ce soit compliqué d'assumer des décisions qui sont parfois impopulaires, mais qui sont parfois nécessaires. Voilà.
Tiens, une autre question sur le Facebook Live. C'est une question de Didier qui est à Nogent-sur-Marne. Faut-il revenir et comment, ou partiellement ou pas, sur le cumul des mandats, Monsieur le Premier ministre ?
Il a été déjà... le cumul des mandats, il est déjà maintenant terriblement limité. On ne peut plus cumuler une fonction exécutive locale et une fonction parlementaire.
Oui, justement. Revenir dans l'autre sens ?
Ça, c'est une question... Moi, j'étais contre cette loi qui a été votée dans le quinquennat précédent. J'étais contre, j'ai voté contre. J'y trouve que
Voilà un sujet de référendum.
J'étais député maire et je trouvais que c'était utile à la fois pour mon mandat de maire et à la fois utile pour mon mandat de député. Bon, la loi a changé. Maintenant, c'est incompatible. Ça a permis... probablement, de faire venir à l'Assemblée nationale des gens qui n'y seraient pas venus sinon, de désigner et d'élire des nouvelles personnalités. Bon. J'observe, et je le dis vraiment comme je le pense, j'observe que la tonalité des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat a changé avec l'interdiction du cumul. Que le lien entre les parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, et les maires, ou les élus locaux, la tonalité de ces débats a changé aussi avec l'interdiction du cumul des mandats. Un certain nombre de maires disant « Mais vous ne savez pas ce que nous vivons, vous ne savez pas gérer une collectivité territoriale puisque vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus aux affaires locales. » Donc, je pense qu'on peut s'accorder, qu'on soit pour ou contre, sur le fait que ça a changé très vite et très profondément la nature du débat démocratique sur les collectivités territoriales.
Et on peut revenir en arrière, c'est-à-dire remettre un lien, être maire d'une petite commune et parlementaire.
Je pense que pour la fonction de maire, et singulièrement pour les maires des petites communes, je vois mal que ce soit incompatible. C'est ma position, je la défendais déjà à l'époque. Mais bon, c'est un débat. Si ce débat prospère pendant ce grand débat national, ce sera intéressant. Il y a beaucoup de sénateurs qui sont favorables à ce cumul des mandats. Il y a beaucoup de parlementaires qui aujourd'hui aimeraient y revenir. Mais il y a aussi des gens qui sont très attachés au fait que les députés se consacrent pleinement à leur tâche de député et les maires pleinement à leur tâche de maire. Et c'est aussi des bons arguments. Moi, je préfère écouter ce que les Français ont à dire et puis ensuite on en tirera les conséquences. J'observe, Madame Saintès, que quand on a supprimé le cumul des mandats, il n'y a pas eu de grand débat national avant.
Une autre question sur franceinter.fr cette fois et qui concerne les institutions. Seriez-vous intégralement défavorable à un tirage au sort de certains parlementaires ?
Moi, je suis très attaché à l'élection. Je comprends la question de la légitimité du tirage au sort. On fait les jurys d'assises.
Mais la légitimité du tirage au sort, ça parle aussi de la représentativité des parlementaires. C'est ça la question en creux,
oui.
En fait.
Oui, mais...
Mes parlementaires ne me ressemblent pas. Et en effet, les parlementaires ne ressemblent pas aux gens, y compris ceux qu'on voit dans les grands débats.
Oui, mais
ça dit
question,
ça, le tirage au sort.
La question, c'est vrai, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on cherche des représentants qui... ressemble exactement à la composition quoi ? Sociale ?
Au moins un peu plus, peut-être ? Au moins un peu plus ?
Non, mais je ne dis pas que c'est une mauvaise question, je réfléchis avec vous. Est-ce qu'on veut des parlementaires qui ressemblent exactement ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, ressembler exactement.
Non, mais ça veut dire, par exemple, qu'en France, il y a 28% de salariés, il n'y en a pas à l'Assemblée nationale ou très peu.
Ouais.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouvriers, ça veut dire qu'il n'y a pas cette représentativité-là.
Et
c'est un peu ce que disent les gens.
J'entends ce que vous dites. Mais on peut aussi se dire que, dans un système démocratique, choisir ses représentants, les élire, leur donner une légitimité qui vient du fait qu'ils ont exprimé ce qu'ils voulaient, et qu'ensuite... On va les laisser prendre les décisions sur lesquelles ils se sont engagés. Je trouve que c'est une très belle légitimité. Si vous voulez, tout ce qui vient miner le caractère légitime des élus me semble contestable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour le tirage au sort. Encore une fois, les jurys d'assises, ils sont constitués comme ça. On ne va pas se raconter de blagues, c'est quand même quelque chose d'utile. Et vous avez peut-être remarqué que dans le grand débat national, on a souhaité qu'il y ait, dans chaque région, à la fin du grand débat, une conférence citoyenne régionale, justement choisie en fonction de tirage au sort, pour que ceux de nos concitoyens qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer dans un débat puissent le faire. Donc, j'oppose pas les deux, mais à titre personnel, je vous le dis très simplement, je suis défavorable à cette mesure, à l'Assemblée nationale, au Sénat et même dans un conseil municipal.
Yael Gauze, très très vite et on changera de thématique juste après.
Vous avez parlé RIC, RIP, référendum classique. Est-ce que ça peut être l'issue du grand débat ?
Ça peut. C'est une prérogative du président de la République.
Vous le souhaitez ?
Je n'ai pas d'avis sur le sujet, ou plus exactement, je trouve que ce serait curieux de le donner avant le débat.
Mais au contraire, ça peut motiver les gens, au contraire, dire oui, derrière, on a un point de débouché.
Le président de la République, c'est une prérogative du président de la République au terme de la Constitution. Moi, je ne suis pas opposé au référendum dans l'absolu. Je trouve que ça peut être un instrument utile. Voilà,
pour sortir du grand débat.
Aussi avec le gaullisme, le général de Gaulle, il n'hésitait pas à utiliser le référendum. Donc, je pense qu'on peut imaginer une sortie du grand débat sur quelques questions, probablement pas sur toutes, avec l'utilisation du référendum. Mais c'est une prérogative qui appartient au président de la République. Et je ne crois pas, alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous intéresser, je ne crois pas qu'on puisse sortir du grand débat uniquement par le référendum. Peut-être qu'il en faudra un, peut-être qu'il en faudra un sur quelques questions, je ne sais pas. Mais je pense que ça ne peut pas être le seul point de sortie. Voilà, je pense qu'il faut plusieurs instruments.
Il y a d'autres questions, il y a plein de questions, il y a tellement de questions au 01 45 24 7000, plus de, combien on me dit, 2500.
Ah là là, oui,
les standardistes sont en apnée, je vous le dis, et on les salue parce que c'est compliqué le travail qu'ils ont à faire. Sur Facebook Live, c'est pareil, sur Twitter également, je voudrais qu'on change de thème et qu'on passe à la transition écologique. Et c'est Baptiste qui nous appelle. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir.
Et bienvenue Baptiste, tu es lycéen. On t'écoute.
Ouais, exactement. Bonsoir. Alors bonsoir Prof Alter, merci. Bonsoir Monsieur Philippe.
Bonsoir Baptiste.
Voilà. Alors je suis en terminale au lycée Albert Camus de Bois-Colombes et dans le 92 et j'organise demain en fait un grand débat dans mon lycée. Et voilà, donc je voulais en fait vous montrer que nous aussi lycéens on se sent assez concernés par toute cette effervescence qui se passe en ce moment en France. Et que on sent vraiment concentré déjà par la transition écologique. C'est
mais justement, Baptiste, sur quel thème vous avez envie d'insister, vous, dans votre lycée? Quand on a 17 ans, on a envie d'insister sur quel thème?
Nous, on a envie, alors évidemment, la fiscalité, c'est un peu loin, puisque on n'est pas encore dans le monde du travail, dans le monde des adultes, j'ai envie de dire. Mais par rapport à la transition écologique, faire évoquer beaucoup de sujets qui pourraient peut-être être plus évoqués pendant tous ces débats, qui sont vraiment des choses du quotidien. Au lieu d'aller très loin dans le monde, dans tous ces One Planet Summit, tous ces COP 21, 22, 23, essayer de trouver des petites choses du quotidien, comme mettre des logiciels sur son ordinateur qui plantent des arbres, je pense à Ecosia, réduire ses déchets au quotidien, et c'est nous qu'on a envie d'évoquer. Et est-ce que nous, lycéens, monsieur Philippe, on va aussi pouvoir être entendu sur ces objets du quotidien?
Merci beaucoup, Baptiste. Est-ce que les lycéens sont entendus?
Alors,
monsieur le Premier
d'abord,
ministre
Baptiste, je ne sais pas comment se passera le débat que vous allez organiser demain, mais je voudrais vous dire merci et bravo. Merci et bravo parce que, pour l'instant, moi j'ai l'impression, c'est une impression, j'ai l'impression que la jeunesse c'est un angle mort du grand débat. Quand j'ai été vendredi dernier à Sartrouville pour participer au débat, il y avait pas de gens qui avaient 17 ans, il y avait
Est-ce
pas de
que
lycéens.
C'est un angle mort des gilets jaunes ou pas
Je sais pas, je veux la pas jeunesse. Je sais pas. Ce que je sais c'est que ce serait terrible si un grand débat national ne prenait pas en compte ce que disent ceux qui ont entre 16 et 30 ans. Ce serait une folie. Si un grand débat doit permettre de définir les politiques publiques pour les années qui viennent, et de penser un peu à la France qu'on veut, ce serait une folie que la jeunesse, entre guillemets, n'y participe pas. Donc, Baptiste, bravo, merci. Et si ça se passe bien demain, organisez un autre. Et veillez à ce qu'il puisse y en avoir d'autres organisés. C'est tellement vrai que, comme moi je suis extrêmement sensible au fait qu'il faut que les lycéens, les étudiants, les jeunes actifs puissent se prononcer, que nous avons imaginé qu'une des conférences citoyennes régionales qu'on organisera, c'est-à-dire par tirage au sort, qu'il y en ait une où on tire au sort spécifiquement des gens de cette tranche d'âge. Parce qu'il faut qu'ils puissent s'exprimer, il faut qu'ils puissent être entendus.
Mais alors sur les petits gestes du quotidien dont parlait Baptiste,
Il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, heureusement, ces petits gestes du quotidien, qui d'ailleurs dépendent souvent beaucoup plus des collectivités territoriales que de l'État, les collectivités territoriales, c'est des formidables acteurs de la transition écologique. Les mairies, les autres collectivités territoriales, je parle plus spontanément des mairies parce que je l'ai vu, je l'ai fait, je l'ai vécu, elles mettent en œuvre des systèmes qui sont souvent très inventifs et extrêmement efficaces pour prendre en compte cette transition écologique. Certains le font avec plus de rapidité, plus d'ampleur que d'autres, mais enfin, il y a beaucoup de villes où ce réflexe, il est en train d'entrer en vigueur. Mais il ne faut pas, et ça sera ma dernière chose, et ce sera intéressant de savoir ce que Baptiste et les lycéens qu'il a invités diront. En matière de transition écologique, les puissances publiques ont un rôle très important. Il y a des décisions à prendre, il y a des cadres juridiques à créer, il y a des incitations fiscales à créer, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui changera la donne. C'est des changements personnels, c'est des changements de comportement. C'est la capacité qu'on a à adapter son comportement à une époque nouvelle.
Eh bien justement, voici Wilfried. Bonsoir Wilfried.
Oui, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Moi j'ai une question concernant l'écologie. Voilà, je fais pas loin de 200 km par jour pour aller travailler, je suis particulier. Je souhaiterais passer à la voiture électrique, sauf que les tarifs sont hors de ma portée d'un point de vue financier. De plus, l'Argus actuellement font des décotes à 10 000 km par an. Donc ma question était pourquoi l'État n'aide pas plus les particuliers pour investir dans des voitures électriques ou les entreprises n'aident pas plus leurs employés dans cette démarche-là.
Merci voilà. Wilfried. Bon, le Premier ministre vous répond.
Wilfried, je comprends votre question. Si vous faites 200 km... pour aller revenir au boulot tous les jours, vous êtes ce qu'on appelle un gros rouleur, hein, parce que ça veut dire que vous en faites des kilomètres tous les ans. Et donc évidemment, passer une voiture électrique, comme c'est évidemment beaucoup moins cher en usage, parce que l'électricité coûte moins cher que le pétrole, c'est une bonne idée. Après, il faut encore qu'on poursuive l'équipement du territoire pour faire en sorte que l'autonomie du véhicule soit suffisante pour les besoins que vous en avez. Et on voit bien que pour vous, ça peut, le cas échéant, être un sujet.
Oui, mais c'est le diable qui se mord la queue, parce qu'on demande aux gens d'investir dans l'électrique, mais en même temps, ils ne peuvent pas recharger la voiture.
Absolument,
donc
c'est pour ça qu'il y a une partie d'investissement public qu'il faut absolument mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on veut équiper le territoire de systèmes de prise. Ça se fait dans les villes, il faut que ça se fasse pas seulement dans les villes. C'est long, ça coûte de l'investissement, mais il faut le faire, parce que c'est la condition pour que le système prenne. Et deuxièmement, il faut accompagner ceux de nos concitoyens qui veulent passer aux véhicules électriques ou aux véhicules hybrides. Parce que l'hybride, c'est mieux, c'est peut-être pas parfait, il y a peut-être des gens qui disent, mais c'est mieux. Et donc, c'est déjà un progrès. Et on revient à la question que vous posiez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait des aides qui sont véritablement efficaces et véritablement efficaces pour ceux qui en ont le plus besoin ? On a créé un système dans lequel on favorise très fortement l'achat de véhicules électriques. Mais c'est vrai, un peu cher. D'où notre discussion avec les constructeurs pour accélérer cette transition vers l'électrique. D'ailleurs, c'est pas toute la solution, le véhicule électrique. C'est un élément de la solution. C'est très important en milieu urbain. C'est peut-être un peu moins vrai en milieu rural, et encore. Mais il faut absolument le développer. Donc, des investissements publics, aider nos concitoyens, faire en sorte que ces aides soient efficaces, et on pourra sans doute pouvoir s'améliorer. Et puis aussi, mettre beaucoup de pression sur les constructeurs automobiles. Les Français ont fait ce choix. Renault a fait ce choix, Peugeot a fait ce choix, c'est bien, mais il faut aller vite, parce que partout dans le monde, il y a des enjeux industriels, il y a des enjeux de souveraineté économique, et il faut faire en sorte que nous soyons très forts sur cette filière qui est une filière d'avenir.
Monsieur le Premier ministre, pour reposer un tout petit peu les standardistes, questions en rafale sur Facebook Live, sur le même thème. Réponse très rapide, pouvez-vous nous assurer, c'est Mireille qui nous le demande à Paris, que la taxe sur les carburants supprimée par Emmanuel Macron ne reviendra pas en 2020? Oui, non.
Bah, l'augmentation de la taxe a été annulée pour l'ensemble de l'année 2019.
Voilà.
Et ensuite le sujet est au débat. Donc voilà, il y a eu annulation de la taxe. Plus exactement, il y a eu annulation de l'augmentation de la taxe en 2019. Donc elle n'augmentera pas en 2019. Ça je vous le confirme. Pour 2020, pardon, mais on n'est pas encore au budget 2020. Et la question de savoir quel est le système fiscal qu'on veut construire est posée. Donc on va entendre ce que tout le monde nous dit avant de vous répondre. Ça me semble évident.
Yaël,
vous pouvez pas l'assurer encore pour 2020.
Mais je ne vais pas vous faire la description de tous les impôts pour l'année 2020, non.
C'est un sujet hyper sensible, c'est l'origine de la crise des Gilets jaunes.
Mais j'ai bien compris que c'était un sujet hyper sensible, d'ailleurs pour ça que la taxe a été totalement annulée. Donc elle est totalement annulée, l'augmentation a totalement été annulée pour l'année 2019. Aujourd'hui, je ne vois pas d'hypothèse dans laquelle on peut facilement repartir avec, entre guillemets, une augmentation de cette taxe. Ça, c'est clair. Mais il faut se poser la question du système fiscal qu'on veut. Tout à l'heure, dans votre petit reportage audio, avant que je réponde à la question, il y a un auditeur, on n'a pas son nom, mais qui disait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui disait, il faut faire un système fiscal où on arrête de taxer le travail pour taxer la pollution.
Parce qu'il n'y a plus de travail.
Ça veut dire que cet auditeur-là, enfin, il s'exprimait, il pense... qu'il faut transformer notre système fiscal dans ce sens. Ben, on a le droit d'avoir ce débat, mais je ne vais pas le trancher avant qu'il ait eu lieu.
Autre question, carburant, donc 80 km/h, la voiture, vous avez dit lundi en Seine-et-Marne, il serait fou de baisser le niveau d'ambition, mais il est légitime de discuter du sujet. Mmh. Est-ce que confier la décision des 80 km/h aux élus locaux, aux préfets, c'est baisser le niveau d'ambition?
Non, ce que je veux dire, c'est que... D'abord, moi, je considère que la question de la sécurité routière, je suis pas le seul à le considérer, les présidents de conseils départementaux le considèrent aussi, hein, et les Français aussi, sans doute, dans leur très grande majorité. Je pense que c'est une question sérieuse. Et je pense que le résultat qu'on constate chaque année en France, c'est-à-dire cette année 3259 morts, un peu plus les années précédentes, on n'a jamais eu aussi peu de morts sur les routes françaises. Je m'en félicite. Enfin, ce niveau est quand même considérable. Et peut-être au moins autant que les morts, je pense aux blessés et aux blessés graves. Alors c'est par milliers, par dizaines de milliers qu'on a chaque année.
Ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours et ce que disent les détracteurs du 80 km/h, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment sur ces tronçons-là que les progrès ont été faits.
Ouais, enfin,
c'est compliqué à calculer pour l'instant.
Oui, mais je sais. Mais enfin, ce que j'observe, c'est que le plan qu'on a mis en œuvre, il a produit des effets que cette année, il y a eu moins de morts que l'année précédente et nettement moins de morts que l'année précédente, que sur le réseau à 80 km/h, il y a eu moins de morts et nettement moins de morts que l'année précédente. Et surtout, j'insiste sur ce chiffre, il y a eu 25% de moins de personnes hospitalisées plus de 24 heures à la suite d'un accident.
Tout donc ça fait l'unanimité, mais est-ce que vous êtes prêt à décentraliser la décision? C'est ça l'enjeu.
Je veux bien qu'on discute.
Oui ou non?
Il y a sans doute des façons très intelligentes d'aboutir à un niveau d'ambition aussi élevé que celui que je fixe. Mais je vous le dis parce que je le crois profondément, tout ce qui consisterait à baisser la garde en la matière serait, oui, fou. Vraiment.
Mais c'était 3200 centralisés. Est-ce que c'est baisser la garde
vous
répondez pas?
C'était un projet à vous, Édouard Philippe. Est-ce que vous mangez votre chapeau? Si vous devez donner une partie de cette compétence aux élus.
Mais je suis certain que les élus, je suis d'autant plus certain que les résultats sont bons, je suis d'autant plus certain que les élus vont faire attention, ils le font déjà sans doute, mais vont faire attention dans les propositions qu'ils sont susceptibles de faire. Moi, je me suis contenté de donner les résultats d'une mesure. J'avais dit, on la met en place pour 2 ans, on fera l'évaluation complète au bout de 2 ans, on la fera au bout de 2 ans. Mais je donne les résultats. J'observe que les résultats sont bons. Je m'en félicite. Pas pour moi, hein, Madame Saint-Ès. C'est pas pour moi que je m'en félicite. Je m'en félicite parce qu'il y a 25% de gens en moins qui ont été hospitalisés plus de 24 heures après un accident. Je m'en félicite parce qu'il y a 116 morts en moins sur le réseau à 80 km/h. Je m'en félicite parce qu'il y a 189 morts en moins sur l'ensemble du réseau français. Ça, je m'en félicite. C'est une bonne nouvelle pour la France, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Je ne veux pas qu'on diminue le niveau d'ambition là-dessus. Je ne veux pas qu'on pense que l'accident de la route, c'est la fatalité.
Merci Monsieur le Premier ministre. Merci Sébastien, il n'a pas encore parlé, pauvrette. Sébastien, allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir Monsieur le Premier ministre, je vous remercie infiniment. Je voulais vous poser une question sur la politique écologique du gouvernement. Comme vous le savez, il y a plusieurs ONG qui ont recueilli plus de 2 millions de signatures, ce qui est une première en France, parce qu'ils accusent l'État devant la justice de ne pas être à la hauteur de ses engagements sur la politique écologique, sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que le gouvernement recule sur l'interdiction du glyphosate, autorise Total à exploiter l'huile de palme, alors que c'est totalement destructeur des forêts, notamment en Indonésie et ailleurs. On voit que le gouvernement est prêt à reculer sur la limitation de vitesse à 80 km/h, alors qu'elle participe aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et que Nicolas Hulot a dû démissionner parce qu'il ne pouvait pas mener la politique écologique. Or, c'est une priorité absolue et rien n'est fait. Il n'y a plus de politique écologique digne de ce nom. Les générations futures sont sacrifiées, les abeilles disparaissent, les oiseaux
Sébastien,
disparaissent
merci.
Par des centaines de milliers.
Sébastien, vous avez une question au bout ou pas?
Or, rien n'est fait.
L'inquiétude, voilà. on la comprend, on la connaît et on la sent, votre inquiétude. Sébastien, est-ce que vous avez une question précise?
La question précise, c'est comment le gouvernement va-t-il répondre aux ONG qui vont traîner l'État devant la justice parce que l'État n'est pas à la hauteur de ses engagements par rapport à la COP21 et aux réductions de gaz à effet de serre notamment.
Voilà. Édouard Philippe.
Je ne suis pas sûr, Sébastien. D'abord, j'entends le sentiment d'urgence que vous exprimez et le sentiment peut-être de frustration par rapport au fait que vous considérez que ce sujet est le sujet premier et qui devrait mobiliser la totalité des moyens, la totalité des ambitions. J'entends cette frustration, c'est pas la première fois que j'entends. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme Sébastien. Je ne crois pas, Sébastien, que la transition écologique, elle sera réussie dans les prétoires. Je comprends très bien qu'on ait envie de se saisir de la possibilité d'intenter un procès à l'État parce que l'État ne ferait pas assez. Bon, très bien, on verra comment ça prospère. Je ne vais pas me prononcer sur une procédure judiciaire puisque certains ont choisi de le placer sur ce débat. Mais je ne pense pas que ce soit là que l'essentiel se joue. Vous avez dit l'État renonce sur le glyphosate. D'abord, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas un État dans l'Union européenne dans lequel l'ambition qui a été portée avec autant de vigueur qu'en France.
Mais on nous a dit, c'est une victoire, nous avons réussi à l'interdire dans les trois années qui viennent. Or, c'est pas vrai, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron.
On ne renonce à rien, on a pris l'engagement de faire en sorte que l'utilisation du glyphosate diminue, voire disparaisse, dans les trois ans. On sait
que ce ne sera pas possible.
On sait qu'il y a un certain nombre de filières où produire autrement est, à ce stade de la recherche, impossible. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui disent « mais non, c'est pas vrai ». Bon, moi, j'écoute tout le monde et je constate qu'il y a un certain nombre de filières, un certain nombre d'endroits où ça va être très compliqué. On peut peut-être s'accorder pour dire que ça va être très compliqué. Mais il y en a plein d'autres où c'est possible et où il faut faire en sorte que ça puisse aller vite dans les trois ans, qu'on puisse atteindre cet objectif de disparition de l'utilisation de ce produit.
Donc, la question, c'est est-ce qu'on s'est donné les moyens d'interdire le glyphosate d'ici à trois ans?
Mais bah oui, ça je vous confirme. Oui, on s'est donné les moyens de faire en sorte que l'utilisation du glyphosate disparaisse. Et après, on verra s'il y a 5%, 10%, 15% d'utilisation qui reste et qui demeure. Est-ce qu'on peut faire autrement? Je comprends l'ambition du rythme formulé par Sébastien. Il faut aller vite, il faut aller massif. C'est la question du rythme auquel on passe d'un état A à un état B, le rythme de la transition des politiques publiques. Il y a aussi beaucoup de gens, et pardon, mais je peux aussi les entendre, beaucoup d'agriculteurs qui disent « ok, très bien, sauf que moi, je ne sais pas faire ». Et ils sont pas forcément abominables. Parfois, ils ont d'excellents arguments. Et parfois, ils ont une situation économique qui est difficile. Permettez-moi, Sébastien, aussi de les entendre. Non pas de dire c'est tel ou tel qui a forcément raison, mais d'entendre des avis qui sont contradictoires et d'essayer de faire en sorte d'avoir une direction claire, celle de la transition écologique, et on ne change pas d'avis sur le sujet, mais essayer de la mettre en œuvre en y mettant les moyens dont on dispose et qui sont acceptables. Et regardez, Sébastien, c'est intéressant. Quand on s'est engagé pour faire en sorte qu'il y ait une augmentation rapide de la fiscalité qui pèse sur les produits qui envoient du CO2 dans l'oxygène, en diminuant la fiscalité qui pèse sur le travail. Ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la taxe carbone, qu'est-ce que ça a suscité? Ben, ça a suscité un rejet. Et il faut l'entendre, ce rejet. Je ne peux pas faire comme si il n'existait pas. Donc, on doit aller vers la transition écologique. On est parfaitement motivé pour aller sur la transition écologique. On met en place des politiques qui développent les énergies renouvelables, l'éolien. Tout ça a un coût. Tout ça se traduit par des coûts, par des dépenses, donc par des choix. Ça veut dire qu'il faut arrêter certaines choses. Non mais c'est là aussi un vrai débat politique au sens très noble du terme.
Et en parlant de politique justement, parce que le nom a été évoqué par Sébastien, dans l'actualité il y a Nicolas Hulot qui a retrouvé sa fondation Nicolas Hulot aujourd'hui. Est-ce qu'il est toujours l'allié du gouvernement? Est-ce que c'est devenu un adversaire Nicolas Hulot? C'est qui pour vous désormais?
Bon, d'abord c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu des discussions. Ben non, mais avec qui j'ai eu des discussions passionnantes, avec qui j'ai appris à bien des égards sur beaucoup de sujets, avec qui j'ai eu des désaccords. Mais je crois, je pense que si vous lui posiez la question, j'espère d'ailleurs que si vous lui posiez la question, il aurait la même réponse que moi, pour qui j'ai du respect et de l'affection. Il revient à la tête de sa fondation et il va continuer un combat qui lui est extrêmement cher, qu'il va faire avec son talent et avec son engagement. C'est très bien. Moi, ça me va très bien.
Céline nous attend au 01 45 24 7000. Bonsoir Céline.
Oui, bonsoir Monsieur le Premier ministre.
Bonsoir Madame.
Vous dire tout simplement que notre liberté demeurera incomplète sans la libération de Monsieur Georges Ibrahim Abdellah, comme le réclame l'État du Liban.
Alors, c'était pas la question évidemment prévue par Céline. Céline, ça sert à rien de jouer à ça parce qu'on va pas répondre à cette question qui est hors sujet. La question de base, mais je voudrais quand même vous la poser, était celle sur l'utilisation des LBD-40 par les forces de police lors des manifestations. Faut-il, oui ou non, interdire cette arme qui est considérée comme très dangereuse par beaucoup, qui a fait surtout beaucoup de dégâts?
Je crois qu'il est impératif, et d'ailleurs on a commencé à se poser la question, il est impératif de se poser la question de la façon dont on envisage le maintien de l'ordre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les manifestations se transforment. Et c'est incontestable, elles se transforment. Elles donnent lieu, et c'est pas depuis les semaines dernières, ça avait été le cas en mai, ça avait été le cas au moment de la loi El Khomri, vous vous en souvenez parfaitement, elles donnent désormais lieu à des concentrations de gens qui viennent pour casser. C'est vrai, c'est un fait, on l'a tous vu. Alors, attends, j'y vais parce que c'est sérieux. Donc il faut qu'on se pose la question de comment est-ce que on contre ça, avec quel type d'instrument, avec quel type de mobilité, avec quel type de doctrine? Je crois, je ne suis pas le seul à le dire, je crois qu'il y a des assez bons spécialistes qui l'ont dit, que la conception traditionnelle du maintien de l'ordre à la française se heurte aujourd'hui à quelque chose qui impose qu'elle change. Et donc cette modernisation de la doctrine d'emploi, cette modernisation des instruments, la question est posée. Moi, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'engager une réflexion extrêmement solide et extrêmement dense pour qu'on puisse adapter nos instruments, et ça répond, je crois, à votre question.
Mais l'urgence, est-ce que c'est pas de suspendre, monsieur le Premier ministre?
Non.
Parce que Jacques Toubon, défenseur des droits, le demande.
Jacques Toubon le demande et il est parfaitement dans son rôle. J'ai observé pendant les manifestations qui se sont déroulées qu'il y avait beaucoup de gens qui se tenaient très bien, mais qu'il y avait aussi des gens qui venaient aux manifestations avec des boules de pétanque, avec des marteaux, avec des réserves d'acide, qu'il y avait une violence inouïe qui s'était... Et je ne veux pas laisser les forces de l'ordre sans moyen soit de se dégager, soit d'intervenir si c'est nécessaire, parce que quelqu'un se retrouverait...
Avec beaucoup de tirs, vous l'avez entendu comment, avec beaucoup de tirs au visage. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, par exemple, que Jérôme Rodriguez, dont on a beaucoup parlé, qui a eu un tir au visage, a été visé par un tir de LBD? Peut le dire?
Non, je ne peux pas le dire, parce que je n'ai aucun élément, ni dans l'enquête
administrative... Parce que les images disent le contraire, vous avez sûrement vu les mêmes images.
Ni dans l'enquête administrative qui est en cours, ni dans l'enquête judiciaire, je n'ai aucun élément qui me permet de dire ça. En revanche, je peux vous garantir qu'avec le ministre de l'Intérieur, qui l'a dit lui aussi, et avec l'ensemble des membres du gouvernement, on est extrêmement attentif à l'exemplarité des forces de police. Elles font, et des forces de gendarmerie, elles font et elles exercent leur mission en ce moment dans un contexte qui est redoutablement violent et difficile.
Sans une enquête de l'IGPN,
ça ne veut pas dire...
C'est bien qu'il y ait des enquêtes de l'IGPN, mais sans une, c'est beaucoup d'enquêtes.
Mais enfin, oui, bien sûr, vous avez raison. Enfin, il vous a pas échappé que dans les dernières manifestations, on avait assisté à des actes d'une violence qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans l'histoire récente. Samedi dernier, il y a 45 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Il y en a qui ont été attaqués à l'acide.
Regardez ce témoignage.
Non, mais attendez,
madame, oui,
mais c'est pas accessoire, c'est pas grave quand c'est l'un, c'est pas grave quand c'est l'autre.
Rien n'est accessoire.
Trois policiers qui sont attaqués à l'acide. Les types qui sont arrivés dans la manifestation avec de l'acide pour le balancer sur des policiers ou sur des gendarmes, ils sont pas venus pour dire qu'ils étaient gentils, mais finalement, on va se défendre. Enfin, c'est pas vrai.
Et en même temps, Philippe nous dit, j'ai 58 ans, j'ai beaucoup participé à des manifestations, mais maintenant je n'y vais plus parce que j'ai peur d'être blessé par les forces de l'ordre. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Est-ce que c'est vraiment normal?
Eh ben, les premiers qui m'ont dit ça, madame Saint-Es, ce sont les syndicalistes. Qui a appelé mon attention, bien avant les Gilets jaunes, qui ont appelé mon attention sur les transformations que connaissaient les manifestations traditionnelles et le déchaînement de violence auquel on pouvait assister parfois. Ce sont les premiers qui me l'ont indiqué. Je vous parle de ça au moment des ordonnances travail. Ça m'avait beaucoup frappé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on transforme à la fois notre doctrine d'emploi, nos équipements, peut-être notre droit. La loi qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale, elle porte aussi sur ça. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que des gens arrivent avec des boules de pétanque et des marteaux dans une manifestation? Pourquoi? Pour faire en sorte que ceux qui manifestent librement et tranquillement, qui déclarent leur manifestation, puissent le faire pacifiquement. Parce que c'est une liberté publique et il faut la défendre.
Vous avez un doute sur ce qui s'est passé samedi à Bastille. Vous ne pouvez pas dire que les forces de l'ordre n'ont pas mal agi ce soir.
Non, mais je dis qu'il y a une enquête administrative, que la justice est saisie et que je ne fais pas le travail de l'enquête administrative et de la justice, que je serai attentif à ces résultats. Alors, croyez-moi, je serai extrêmement attentif à ces résultats. Que le ministre a dit lui-même, et il a eu raison de le dire, que tant qu'il n'aurait pas les résultats, il n'allait pas se prononcer sur le fond de l'affaire.
Le premier effet, c'est dire non, ils n'ont pas tiré.
S'il y a eu une faute, elle sera évidemment sanctionnée. Mais s'il y a eu une faute, et permettez-moi d'attendre le résultat de l'enquête pour savoir si oui ou non, il y en a eu une. Voilà.
Alors, il y a une question d'actualité, monsieur le Premier ministre, c'est Marc des Yvelines. Concernant le retour des djihadistes, les crimes ont été commis à l'étranger, quelle législation s'applique? J'ajouterais, souhaitez-vous le retour de ces djihadistes ou pas?
Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'ils ne disparaissent pas. Parce que tout le monde se pose la question de savoir s'il faut qu'ils reviennent, la question du moment. Le droit est assez clair. S'ils ont commis des crimes, par exemple, en Irak, ils doivent être jugés en Irak. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ont déjà été jugés en Irak. Quand bien même sont des ressortissants français. Ça ne me pose aucun problème. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Français qui ont choisi d'aller en Syrie, d'aller se battre, ou en Irak, mais qui sont aujourd'hui en Syrie, dans le nord-est de la Syrie, qui ont choisi d'aller se battre, qui ont fait la guerre, que nous avons combattu, français ou pas, nous les avons combattus. J'insiste là-dessus, qui sont aujourd'hui détenus par les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire notamment par les Kurdes. Les Américains s'en vont. Qu'est-ce qui se passe si demain
Et les Kurdes disent criminel. Nous, on ne peut pas garder les djihadistes dans
alors,
ces conditions-là.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, je vous pose la question, faut-il les rapatrier ?
Mais moi, je ne veux pas qu'ils soient dispersés. Je ne veux pas qu'ils repartent en liberté pour continuer leurs activités. Et donc, s'ils sont expulsés...
Donc, vous souhaitez qu'on les ramène ?
Non, non, je ne dis pas ça. Je dis que s'ils sont expulsés, je préfère qu'ils soient jugés et condamnés, et sévèrement. Et sévèrement, parce qu'ils se sont battus et ils ont été complices ou responsables d'actes terroristes. Je préfère qu'ils soient condamnés et punis en France plutôt qu'ils se dispersent dans la nature pour fomenter d'autres actions, y compris contre notre pays. Voilà, c'est la seule chose que je dis. Maintenant, si ils étaient, par exemple, en Irak, et qu'ils étaient jugés en Irak, et qu'ils étaient condamnés en Irak, et qu'ils étaient détenus en Irak, je ne verserai pas de larmes.
Yaël,
la droite vous répond, puisqu'ils ont trahi le pays, la patrie, n'ont pas à y revenir en France.
Oui. Non mais certes, mais c'est très bien. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'on préfère qu'ils soient en liberté ? Est-ce qu'on préfère qu'ils soient dispersés, qu'ils rejoignent les rangs de Daesh ou qu'ils partent dans un autre pays pour continuer à fomenter de tels actes ? Ils sont aujourd'hui détenus. S'ils sont expulsés vers la France, ils seront jugés et ils seront condamnés, je l'espère.
Édouard Philippe, il nous reste...
Enfin, je suis sûr qu'ils seront condamnés compte tenu de la nature des actes qu'ils ont commis, ça, j'ai pas de doute là-dessus.
Il nous reste une poignée de secondes, et juste pour conclure, question de Fabienne S. de Paris, s'il y avait un point ou deux, sur quoi diriez-vous « merci les gilets jaunes »
C'est une bonne question. Je dirais... je ne dirais pas merci pour la violence qui s'est déchaînée. Je dirais que le fait de pouvoir engager un grand débat pour se poser avec eux, mais pas exclusivement avec eux, avec l'ensemble des Français, des questions qui sont au fond de l'engagement politique, qui sont au fond des décisions de notre pays, ça c'est une bonne chose.
Et ce sera la phrase de conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à ce téléphone Sonic XL. Vous avez été extrêmement nombreux à poster, à écrire, à envoyer, à téléphoner des questions. Merci beaucoup. Merci vraiment, ce sera l'occasion de le refaire et portez-vous bien.